Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale week-end. Vous êtes peut-être en voiture en train de chercher de l'essence en ce moment apparemment, nous disait notre réalisateur Nicolas Charpentier. Il y a du monde sur la 1 en ce moment. Alors si vous nous écoutez, on vous souhaite bon courage et on essaiera de vous accompagner au mieux pendant plus de 2 heures avec 2 invités. 6h20, comment mieux traiter notre électroménager pour faire des économies avec Régis Koenig de Fnac Darty. Et puis 7h10, on va parler MeToo. 5 ans après, qu'est-ce que ce hashtag a changé? Qu'est-ce qu'il reste à faire. Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes, sera mon invitée. Roland Pérez et Valérie Darmon éclairent votre lanterne sur des questions juridiques avec le démarchage des numéros en 06 et 07 bientôt interdits. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et puis Christophe Bordet nous alertera. On trouve de moins en moins d'appartements à louer. Ce sera juste avant le journal de 8h. Et puis notre balade du dimanche va nous emmener à la découverte d'une bambouseraie dans les Cévennes. On en profitera avec Olivier Pouls pour préparer une petite pissaladière. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6h.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et à 6h, le premier journal vous est présenté par Wilfried De Villers. Bonjour Wilfried.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le pont de Crimée attaqué hier, un revers cinglant pour la Russie. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui réagit avec légèreté en commentant la météo de la région. Nous revenons sur la journée de samedi en Crimée dans un instant.
Des stations-service à sec, on vient d'en parler. Une crise du carburant qui perdure en France. La CGT revoit ses exigences à la baisse, se concentrant sur la question des salaires. Et la grève pourrait bien durer, nous dit le représentant CGT de Total Énergie.
Dans cette édition également, le retour précoce de la bronchiolite chez les enfants et du football. Le Paris Saint-Germain a concédé le nul hier à Reims.
Dans la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet qui est à Auteuil aujourd'hui. À 6h20, le responsable durabilité de Darty nous parlera de l'importance de l'entretien de notre électroménager. Et puis une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et bien ce dimanche est très ensoleillé quasi partout avec une seule exception, toujours la même, le sud-est, orageux en Mercantour et pluvieux entre Toulon et Menton.
Et météo complète à la fin du journal. Une infrastructure hautement stratégique et très symbolique. Le pont de Crimée a donc été pris pour cible hier.
Une attaque au camion piégé qui a provoqué un important incendie. Depuis, la circulation a repris partiellement. L'attaque signe en fait un revers de plus pour la Russie. Et Moscou prend l'affaire très au sérieux, annonçant connaître désormais l'identité du conducteur du camion. Le ton semble presque à la légèreté pourtant du côté de l'Ukraine, du côté de Volodymyr Zelensky, Chloé Lagadou.
Un épais nuage de fumée noire et des flammes sur le pont de Crimée après l'explosion d'un camion piégé hier matin. Résultat, le principal axe routier qui relie la péninsule annexée à la Russie est endommagé. Un nouveau coup dur pour Moscou qui prend cette explosion très au sérieux. Une enquête criminelle est déjà ouverte. En revanche, côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky n'a pas fait de déclaration officielle. Il s'est contenté d'ironiser en évoquant la météo en Crimée.
Cette journée était une magnifique journée. Il y avait du soleil quasiment partout dans le pays. Malheureusement, c'était nuageux en Crimée, même s'il faisait chaud. Mais quels que soient les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Ils savent que notre avenir est ensoleillé. C'est un avenir sans envahisseurs sur tout notre territoire, en particulier en Crimée.
Mais malgré cette touche d'humour, le gouvernement ukrainien dément être à l'origine de l'explosion et privilégie plutôt une piste russe.
Chloé Lagadou, Kiev, qui avance même le scénario d'une lutte interne entre le FSB et les services secrets russes et l'armée. Nous parlions de revers pour l'armée russe. C'est dans ce contexte que le commandement des opérations en Ukraine change de visage. Moscou annonçait hier la nomination du général d'armée Sergueï Sourokivine à la tête de son opération spéciale. Sourokivine, réputé pour être un dur de dur. À l'agenda diplomatique, cette visite de la première ministre française en Algérie aujourd'hui. Pour son premier déplacement à l'étranger, Elisabeth Borne sera accompagnée d'une quinzaine de ministres. Objectif, relancer les relations franco-algériennes après la visite d'Emmanuel Macron fin août dans le pays. Deux dossiers brûlants sur la table, les hydrocarbures et la question des visas.
Et voilà qui nous amène justement aux tensions sur l'approvisionnement de carburant qui se poursuivent en France.
Une station-service sur 5 fait face à des difficultés en cause Cette grève des raffineurs qui dure depuis plus de 10 jours, elle a été reconduite hier. Si la CGT de chez Total Energy a bien fait un geste en proposant de limiter ses revendications à la question des salaires, eh bien pas sûr que les grévistes soient entendus. C'est en tout cas ce que dit Éric Cellini, le coordinateur CGT du groupe pétrolier français.
Nous avons de nouveau tenté d'interpeller notre direction générale en adressant un courrier à M. Patrick Pouyanné concernant les augmentations de salaire pour l'année 2022. Il n'y a rien qui se passe. La direction, je ne sais pas avec qui elle parle. La chose qu'on peut constater, c'est que depuis le début de ce mouvement, nous, on nous interroge beaucoup, mais qu'à l'inverse, on n'entend pas beaucoup. La voix des principaux responsables, ça présage que le mouvement va continuer. Puisque les salariés semblent déterminés à attendre cette réponse. Et je pense que ça risque de continuer encore un petit moment, oui.
Propos recueillis par Thibaut Hue. Un bras de fer qui se poursuit et des files d'attente à la pompe qui s'allongent face au manque de carburant. De plus en plus de stations limitent désormais les pleins à 30 litres ou à 30 euros pour qu'un maximum de voitures puissent s'approvisionner. Une attente et un manque de carburant qui crée aussi parfois beaucoup de tensions. En Haute-Savoie, une altercation entre deux automobilistes a dégénéré hier. L'un d'entre eux, victime de 6 coups de couteau, son agresseur n'aurait pas supporté se faire passer devant dans la file d'attente.
À 6h05 sur Europe 1, on parle de votre santé à présent, celle de vos enfants, précisément avec l'arrivée du froid. Eh bien, c'est la bronchiolite qui est de retour.
Un retour précoce, même depuis septembre. Les cas de bronchiolite à l'hôpital ont augmenté de 41% chaque année. Ce virus touche près de 500 000 enfants. Alors si nous ne sommes pas encore en phase d'épidémie, eh bien Santé publique France alerte tout de même. Delphine Viriot est épidémiologiste chez Santé publique France. Écoutez.
Tout au long du mois de septembre, les indicateurs syndromiques ils ont augmenté avec 299 actes médicaux cette semaine. Et au niveau hospitalier, on a donc 1491 passages aux urgences cette semaine, plus de deux fois supérieur à ce qui était habituellement observé à la même période lors des saisons antérieures à la pandémie de Covid-19. On peut dire que les faisceaux d'éléments qui sont actuellement recueillis, ils sont en faveur d'une augmentation de la circulation du virus en amont du démarrage d'une potentielle période épidémique qui serait à venir. C'est possible de limiter le risque de bronchiolite et donc les parents peuvent adopter au quotidien les gestes barrières, donc en particulier le lavage des mains, le port du masque et l'aération régulière des pièces. Demander à une personne enrhumée ou grippée de reporter sa visite à la famille.
Delphine Viriot au micro de Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Alors que s'ouvre mardi prochain un nouveau cycle de concertation sur la réforme des retraites, une question: comment favoriser le retour à l'emploi des seniors? Eh bien, ils pourraient continuer à percevoir une partie de leurs indemnités s'ils retrouvent un emploi moins bien payé que le précédent. C'est en tout cas une des pistes envisagées par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui s'exprime aujourd'hui dans le JDD.
Allez, on passe au sport avec la 10e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain accroché à Reims hier.
Les Parisiens ne sont pas parvenus à faire la différence. 0-0 en fin de rencontre. S'ils ont joué toute la deuxième mi-temps en infériorité numérique, les hommes de Christophe Galtier ont tout de même montré une certaine fébrilité hier soir, Cyril de la Morinerie.
Oui, le PSG perd ses nerfs d'abord. Sergio Ramos expulsé en première période pour contestation, le 28e carton rouge de sa carrière. Ensuite, Neymar entré en jeu sanctionné pour un mauvais comportement. Ou encore, Kylian Mbappé en fin de match. La star parisienne qui a poussé un joueur rémois aurait pu écoper d'un carton rouge. Action qui a débouché sur un début de pugilat que l'arbitre a abrégé en sifflant la fin de la partie. Des joueurs parisiens qui, malgré leur expérience, ont manqué de maîtrise. Ce que regrette leur entraîneur Christophe Galtier.
Nous, on est sur les enchaînements de matchs et j'ai trouvé que les joueurs étaient très nerveux. Il y avait beaucoup de discussions. Quelquefois des excès d'engagement. À force de nervosité, de frustration, le match a dégénéré et il aurait fallu que ce match-là soit beaucoup mieux maîtrisé par tout le monde du football et malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Paris reste invaincu en Ligue 1, mais les hommes de Christophe Galtier, on l'a vu à Reims, ont de plus en plus de mal à régner en maître sur les terrains. C'est le deuxième match nul consécutif pour Paris et c'est la première fois que les Parisiens ne marquent pas dans un match depuis le début de la saison. L'entraîneur du PSG reste cependant serein, mais les coéquipiers de Kylian Mbappé ont tout intérêt à retrouver leur sang-froid mardi prochain pour la réception du Benfica Lisbonne en Ligue des Champions.
Autre accrochage pour l'Olympique de Marseille, cette fois tenu en échec par Ajaccio hier, 2-1. C'est la première défaite de la saison pour Marseille.
Merci beaucoup Wilfried de Villers, à tout à l'heure.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Valérie Damon, vous nous dites qu'il y a du soleil partout, sauf dans le sud-est.
Effectivement, plein soleil dans notre ciel aussi, sauf de PACA jusqu'aux Alpes dès ce matin, où le ciel est couvert et les averses fréquentes, parfois orageuses d'ailleurs en Méditerranée, et qui peuvent s'étendre dans la soirée jusqu'à la basse vallée du Rhône. Et localement, ces pluies qui sont plus intenses et très soutenues, notamment sur l'île de Beauté. Du Languedoc-Roussillon jusqu'à Rhône-Alpes, ainsi que sur la chaîne pyrénéenne, la journée se déroule sous de nombreux nuages et quelques pluies éparses, beaucoup moins qu'hier. Et sur le reste de la France, c'est-à-dire les trois quarts du pays.
C'est-à-dire là où voilà, partout ailleurs.
Partout ailleurs. C'est-à-dire que là, le soleil va briller dès son lever du matin jusqu'au soir. Ce sera presque un temps d'été.
Alors, est-ce que les températures sont estivales aussi?
Quasi, notamment dans le sud-ouest, avec 27 degrés annoncés à Mont-de-Marsan cet après-midi, à l'ombre et sous abri. C'est dire, vous pourrez presque vous baigner si vous êtes courageux. Actuellement, à l'heure où on se parle, à 17 à Toulon et à Bastia, 16 degrés à Nice, 15 à Marignane et Nîmes, 13 degrés à Agen, Biarritz et Toulouse, 10 degrés à Cognac et à Lyon, 9 degrés à Nantes et Besançon, 7 degrés à Paris et 6 à Lille.
Merci beaucoup Valérie, rendez-vous à 6h30 dans un instant. Bien fait pour vous, on va manger du gras, mais du bon gras pour la santé. Et puis la question conso, comment mieux traiter notre électroménager pour faire des économies. Mais avant cela, l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour les naïcs, c'est sur le parcours des 3700 mètres sur le steeplechase d'Auteuil que va se courir ce quintet. Et parmi les 18 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Canichette, le numéro 4, une jument douée longtemps ménagée par son entourage, très bonne sauteuse, n'ayant besoin de personne dans un parcours. Et sur ce tracé qu'elle connaît sur le bout de ses sabots, elle va pouvoir appliquer sa tactique préférée, aller de l'avant, et je la crois donc capable de s'imposer de bout en bout. On lui opposera les numéros 3, Osaville, bon cinquième derrière ma favorite, Canichette, lors de sa rentrée le 13 septembre, après 5 mois d'absence, et à la faveur de quelques progrès attendus, il devrait pouvoir à coup sûr conclure dans les 3 premiers. 14, écoute en tête, à qui on ne peut rien reprocher, puisqu'il reste sur 3 troisièmes places consécutives à Auteuil, et 8, Blackfield, déjà deux fois à l'arrivée au printemps dernier, sur le même parcours que celui qu'elle empruntera cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Enfin, les numéros 1, Havanea, 11, Rimfire, 16, Finistère Madric, et 2, Saint-Dubaoui, peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 4, 3, 14, 8, As, 11, 16 et 2.
Merci beaucoup Thierry Léger, bon dimanche.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Julia et Mélanie qui vous aident à prendre soin de vous du lundi au vendredi et qui se demandent ce matin quel est le bon gras pour être en bonne santé.
On parle ce matin du gras, docteur Plumet, pour être en bonne santé. Alors dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui on parle du bon gras. Quand on dit de bonne graisse, on parle de quoi concrètement? Un petit aperçu on va dire pour l'instant.
Oui, alors les idées changent parce qu'autrefois on criait à roue sur le beurre, on criait à roue sur les graisses saturées, donc manifestement il y avait le bon et le mauvais. Bon, maintenant cette notion de bon et de mauvais n'existe plus parce qu'en fait tout est une question de dose. En fait les acides gras saturés, sur lesquels on s'est beaucoup acharné, sont bons pour la santé à condition de ne pas tomber dans les excès. Ce qui fait que dans l'alimentation, si on a un bon apport de graisses saturées, d'oméga 9, d'oméga 3, d'oméga 6, et donc les aliments qui vont derrière pour les apporter, eh bien on s'en portera très bien. Donc il faut encore une fois respecter la juste dose. Donc il n'y a pas de mauvaise graisse, il y a des bonnes graisses à condition de respecter la dose recommandée.
Il y a surtout de bonnes doses. Alors parmi justement ce bon gras, on l'a vu, il y a le beurre, on sait que la France est connue pour sa panoplie de fromages, mais c'est un peu pareil hein, concernant le beurre en fait. Patrick, combien de beurre français on a nous?
Alors on retrouve environ 550 marques de beurre en France.
C'est énorme.
Donc, sur tous les étals hein, qu'on peut trouver aussi bien sur nos artisans, sur les grands supermarchés et compagnie. Et après, on retrouve trois beurres qui sont certifiés sous signe de qualité, ce qu'on appelle les AOP. Donc on retrouve le beurre de Brest, le beurre d'Isigny et le beurre Charente-Poitou.
Oh là là, c'est la classe. On dit qu'il y a une autre bonne graisse hein, qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'huile. Vous en fabriquez plusieurs types d'huile, ça va de quoi à quoi?
Alors nous, notre cœur de métier, c'est l'huile de noix et l'huile de noisette en méthode traditionnelle. Donc en fait, on travaille à la meule de pierre. Ça fait plus de 100 ans qu'on travaille comme ça. Et on s'est diversifié aussi sur l'huile de première pression à froid. Mais on va presser de la noix, de la cacahuète, de l'olive et du colza.
D'accord. Alors, on a une idée de je sais pas, la tonne d'huile, de litres d'huile végétale que les Français consomment, celle que vous fabriquez ou d'autres, parce qu'il y en a encore d'autres, évidemment. Je crois que le chiffre est assez impressionnant. On est des gros consommateurs d'huile.
Hein. Oui, on a à peu près 800 000 tonnes par an de consommation, sachant que le trio de tête, c'est le tournesol, l'olive et le colza.
D'accord. Et donc, c'est la plus vendue, c'est le tournesol, hein, c'est
oui.
ça. D'accord. Laurence, on va le voir que manger du bon gras, c'est excellent pour la santé. Et je crois même que dès la naissance, un bébé doit avoir une alimentation riche en gras. C'est vital pour lui ?
Oui, alors pour deux raisons. Parce qu'il n'a échappé à personne le fait que quand le bébé vient au monde, il est rempli de petits bourrelets. Et donc, en moyenne, le gras représente 30% du poids de son corps. Et ce gras, il est absolument nécessaire pour...
Oui. On est resté des bébés, Julien.
Oui, hein.
Non, on est pas loin.
Donc pour
le
lui,
gras de la cuisse, on l'a encore. Hein.
Pour lui, c'est une réserve énergétique qui est génétiquement déterminée, qui lui permet de résister à toute carence calorique si elle était amenée à arriver.
Oui.
Donc c'est une question de survie pour lui. Hein. Alors après, à partir d'un an, il va commencer à s'affiner. Et puis deuxième point, l'aspect qualitatif du gras aussi. Mmh. Parce que le bébé est en plein éveil neurosensoriel. Et donc le gras, en particulier les oméga-3, on est très vigilants à ça, nous nutritionnistes. Il faut du DHA dans l'alimentation du bébé. Et donc ce DHA, qui intervient dans le développement des neurones. Il a été ajouté par les industriels dans les laits infantiles quand la maman ne peut pas allaiter, ou il sera présent dans le lait de la mère si elle mange suffisamment de DHA avec les poissons
mais
gras.
Mais souvenez-vous, je crois que c'est Laurence Plumet qui nous avait dit que c'était bien d'avoir toujours un petit gras autour de
bien
nous,
sûr.
Même à l'âge adulte, hein, c'est pas mal.
Ah oui,
un
oui,
peu
oui,
de gras,
façon,
c'est bien.
Ah mais vous savez, le petit bourrelet, il est très sympathique, il fait de mal à personne.
Et
non,
surtout,
il nous aide
pour notre survie.
Ah mais absolument, il a 5 rôles importants, je vous le détaillerai une autre fois avec
donc,
plaisir.
Donc nous, on applique tous vos bons conseils, évidemment, avec Julien, on s'y attache. Docteur Plumet, on disait juste avant que donc avoir un peu de gras, on en a besoin, on va même beaucoup de gras quand on est bébé, en grandissant, ça reste quand même important. Ce petit bourrelet qu'on va avoir, eh bien, finalement, il peut nous être une bonne petite réserve vitale, on va dire. Mais au-delà de se dire que, ok, c'est un besoin vital, je crois que notre cerveau en a vraiment besoin aussi pour bien fonctionner du gras.
Ah mais bien sûr, de toute façon, les différents types de gras, que ce soit saturé, monoinsaturé ou polyinsaturé, ont des fonctions différentes. La première, production d'énergie, et la cellule cérébrale, elle en a besoin comme toutes les autres cellules. Et la deuxième, c'est rentrer dans la composition des membranes et participer à la fonction cellulaire. Et en particulier, le cerveau est riche en gras. Les neurones ont besoin de beaucoup de graisse, et en particulier du DHA, de l'EPA et du DHA dont je parlais.
Je
donc
savais pour le sucre, mais moins pour le gras.
Oui,
sais,
alors ouais. Le sucre, il a juste une fonction de carburant, le glucose. Alors que le gras a une fonction vraiment de vitalité cellulaire au niveau des neurones. Voilà, donc il y a beaucoup de
pour
gras dans le cerveau.
Vous êtes si vive d'esprit,
Julie. C'est parce que je mange beaucoup de gras, vous avez vu.
Oui, mais pas n'importe quel type de gras pour le cerveau. Hein. Ah, les oméga-3, essentiellement.
Les oméga-3. On les trouve dans quoi, les oméga-3, rapidement?
Alors, les poissons gras, voilà, pour le PA et le DHA, particulièrement utile pour les neurones.
L'avocat
mais également,
ou pas ?
Alors, ça, c'est pour les sources d'origine animale. Mmh. Et pour les sources d'origine végétale, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix aussi est une très bonne source d'oméga-3 et l'huile
d'accord.
de chanvre aussi.
Et l'avocat ?
Alors, l'avocat, c'est surtout de l'oméga-9, qui est très bien aussi. On peut le mettre au même niveau que l'huile d'olive,
d'accord.
Hein, qui est également très bon en prévention des maladies cardiovasculaires.
Alors, Laurence, tout à l'heure, vous nous avez dit que ce bon gras était vital, mais je crois qu'on peut même mincir en mangeant du gras, enfin du bon gras. C'est ce qu'on appelle le régime cétogène. C'est bien ça ? Vous pouvez nous en rappeler les principes ?
Oui, alors, je ne vais pas en dire du bien, hein, je vous le dis tout de suite.
Ah bon ? Ah, moi, je pensais que vous alliez dire que c'était
non.
super de manger du bon gras.
Ah oui, oui, bien sûr. Sauf que le régime cétogène, il repose sur une alimentation totalement déséquilibrée. Puisque
c'est...
le principe du régime
cétogène,
c'est de supprimer complètement toutes les sources de glucides. C'est-à-dire, il y a pas de féculents, il y a peu de fruits, on évite évidemment toutes les sources de sucre. Enfin, voilà. C'est zéro glucose, autrement dit, c'est zéro carburant naturel de la cellule. En partant du principe qu'on va vider le tissu adipeux de son gras pour utiliser ce gras comme carburant de secours, en remplacement du glucose.
D'accord.
Sauf que la cellule n'est pas du tout faite pour avoir de l'acide gras comme carburant, donc elle va passer par la phase corps cétonique.
Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
D'abord, ça donne une haleine de chacal dans les premiers temps, et puis ce n'est pas très agréable. Et puis deuxième temps, c'est comme si vous donniez du diesel à une voiture qui est habituée à fonctionner à l'essence. Quoi.
Donc on va être quoi, fatigué ?
Donc,
qu'est-ce qui peut
oui,
nous
bien sûr, et puis il y a des carences, et puis ça ne va jamais très loin, parce qu'on ne peut pas se nourrir indéfiniment d'une alimentation
comme ça,
qui supprime des pans entiers d'aliments. Donc ça dure un certain temps. Bien sûr, la personne maigrit.
Ah, moi, je l'ai testé, on maigrit très vite, mais on reprend très vite.
Mais
en
bien
fait.
Sûr.
Donc c'est pas tenable.
Et
moi,
c'est
je
un
trouve...
des régimes qui favorise le yo-yo pondéral. Et moralité, les gens reprennent des kilos, les kilos qu'ils ont perdus, voire même plus. Et c'est comme ça que moi, j'ai des patients qui sont en situation d'obésité pour avoir suivi toute leur vie des régimes qui favorisent ce yo-yo, dont le régime cétogène, entre autres.
Donc, vous le déconseillez.
Non, il faut manger un petit peu de tout et surtout bouger de plus.
Bien fait pour vous, du lundi au vendredi de 11h à midi et n'importe quand sur Europe 1.fr.
Europe Matin Weekend.
Lénaïque Monnier.
Vous y avez peut-être déjà été confronté, la cafetière qui tombe en panne pile le jour où on doit se lever très tôt, l'aspirateur qui n'aspire plus, et la tentation très souvent c'est de tout racheter. Alors qu'en réalité, on sait maintenant qu'une panne sur deux pourrait être évitée grâce à des tout petits gestes, hein, simples, pas chers à effectuer, mais assez régulièrement, c'est mieux pour le porte-monnaie, c'est mieux pour l'environnement. Et avec ce plan de sobriété énergétique, évidemment, on est en plein dedans. Bonjour Régis Koenig.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de l'offre service et durabilité de Fnac Darty. Tiens, question justement d'actualité après l'annonce de ce plan sobriété d'Elisabeth Borne. Les commerces sont mis à contribution. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Darty Fnac, pour être dans les clous?
Écoutez, on est très vigilants sur tous les sujets de consommation d'énergie. Mmh. On développe une flotte de livraison qui est plus économe en CO2. Évidemment, on fait attention au chauffage de nos magasins, etc., etc. Mais le plus important pour nous, c'est de travailler sur la durée de vie des produits, parce que c'est dans notre impact environnemental, c'est la durée de vie et des produits que l'on vend qui a le plus d'importance.
Alors c'est de ça justement qu'on voulait parler avec vous ce matin. On ne pensait pas forcément en arriver là un jour, mais si. Il y a des petits entretiens à faire pour ne pas changer toutes les 5 minutes notre électroménager. Lesquels par exemple?
Par exemple, sur tous les produits que vous avez chez vous, sur votre lave-linge par exemple, il y a des gestes très très simples comme nettoyer le filtre. Mm-hmm. Vous pouvez voir dans votre mode d'emploi comment faire. Tous les lave-linges ont un filtre, il faut le nettoyer régulièrement. Eh bien, ça permet de préserver le lave-linge et d'éviter qu'il tombe en panne. Parce que sur un produit, par exemple, comme le lave-linge, on ne le pense pas assez, rallonger sa durée de vie d'un an en évitant la panne, par exemple, ça permet de limiter de 15% les émissions de CO2 liées à la fabrication de ce lave-linge.
Alors nous, c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte, hein. En plus, c'est vrai que c'est bien de pouvoir le rappeler. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit surtout pas faire? On m'a expliqué il n'y a pas très longtemps que le vinaigre dans une cafetière, ce n'était pas du tout une bonne idée pour la détartrer.
Alors le vinaigre dans une cafetière, effectivement, ça permet d'enlever le tartre. Mmh. Par contre, il vaut mieux utiliser un produit adapté au détartrage des cafetières, parce que le vinaigre, ça peut attaquer les joints. Et donc, du coup, ça peut avoir un effet néfaste sur les joints de la cafetière. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller dans le commerce acheter un produit qui est adapté au détartrage des cafetières.
Alors, on ne va pas se raconter d'histoire non plus. On n'est pas les seuls uniques responsables des pannes de nos objets. Il y a aussi une question d'obsolescence programmée. Est-ce qu'il y a des marques qui sont plus ou moins vertueuses que d'autres?
Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose que nous, on suit de très près, puisque comme vous le savez probablement, on est à la fois le premier distributeur de produits et d'équipements de la maison en France, mais on est aussi le premier réparateur. On a plus de 2000 techniciens aujourd'hui qui réparent depuis des dizaines d'années. Les techniciens, on a accumulé à ce titre une quantité d'informations assez incroyable sur les produits, leurs pannes, et cela nous permet de comparer la fiabilité et la réparabilité des produits entre eux. Bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on rend public. Une fois par an, on actualise ce qu'on a appelé, nous, le baromètre du SAV, qui est disponible sur Internet. Hein, vous cherchez baromètre du SAV et vous allez tomber sur l'intégralité des catégories. C'est-à-dire, il y a 88 catégories qui sont couvertes, avec pour chaque catégorie, quelles sont les marques les plus fiables et les plus réparables.
Et là, ça nous permet effectivement d'aller vers vous pour réparer nos objets. Est-ce qu'avec la crise actuelle, il y a quand même des difficultés à trouver des composants pour la réparation?
Écoutez, c'est assez variable. Il peut y avoir des pénuries, effectivement, sur certaines pièces de manière très limitée. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que d'une manière générale, on arrive à trouver les bonnes pièces et les utiliser pour pouvoir réparer les appareils de nos clients. Ce qu'il faut aussi, que tout le monde ait bien en tête, ça, on rejoint un peu le sujet de l'entretien, c'est que plus d'une panne sur deux ne nécessite pas de pièces détachées. Et aurait pu être évité probablement par un meilleur entretien. Donc, c'est vraiment quelque chose. Je prends l'exemple du lave-vaisselle. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du filtre. Ce qu'on voit, c'est que la panne la plus fréquente sur les lave-vaisselles, enfin, en tout cas, la raison d'appel, vous savez, chez nous, la plus fréquente, c'est que les gens n'ont pas simplement nettoyé leur filtre sur le lave-vaisselle. Vous savez, c'est la petite pièce là qui est en bas du lave-vaisselle.
Au milieu, là, qu'on tourne et qu'on nettoie.
Et voilà. Et la deuxième panne, c'est la pompe de vidange du lave-vaisselle qui tombe en panne justement parce que ce filtre n'a pas été nettoyé. Vous voyez ? Donc ce réflexe de l'entretien, de la maintenance des appareils, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que nous, on a développé des services qui permettent d'aider les consommateurs à faire ces gestes-là.
Alors c'est vrai que parfois, on a tendance à se dire que ça va être peut-être aussi cher de réparer que d'acheter. Donc, c'est un logiciel qu'on doit revoir nous-mêmes consommateurs.
Oui, tout à fait. Alors, il faut regarder ça sur le temps long, parce que Bon, déjà, la réparation n'est pas si chère que ce qu'on pense parfois. Il y a aussi des nouveaux modèles de réparation qui sont développés. Nous, on a lancé, par exemple, Dartimax, c'est un abonnement à la réparation, une espèce de Netflix de la réparation. Et si vous êtes abonné à ce service, vous allez pouvoir réparer gratuitement tous les appareils que vous avez chez vous, et quel que soit leur âge. Donc, on voit qu'il y a des entreprises, donc nous évidemment, mais d'autres aussi, qui cherchent des modèles pour faciliter l'accès à la réparation, que la réparation soit plus facile et moins chère pour les consommateurs. Et puis, quand on regarde l'équation économique globale, regardez votre lave-linge, si au lieu de le garder 6 ans, vous le gardez 10 ans, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas remplacer votre lave-linge au bout de 6 ans, et sur la durée, sur les 10 ans, en fait, vous allez faire des économies au final.
D'accord, et c'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus fleurir des repair cafés, du reconditionné, et que tout ça, effectivement, c'est un jeu à jouer entre les consommateurs et les distributeurs et les marques. Merci beaucoup Régis Koenig, on rappelle que vous êtes directeur de l'offre service et durabilité de Fnac Darty. Bon dimanche à vous.
Merci, bon dimanche.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Merci beaucoup de nous rejoindre en ce dimanche. Bon courage si vous allez travailler. Bon courage également si vous cherchez une station essence en ce moment. Voici le journal à présent présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et oui, situation toujours tendue dans les stations-service, des heures d'attente, des quantités limitées. Remplir son réservoir dans certaines régions relève du défi.
Noël est encore loin, encore que, mais la récolte des sapins, elle, va bientôt démarrer. Dans le Morvan, l'inquiétude plane autour du manque de saisonniers.
Et puis pour continuer de briller à Noël, d'importants travaux de rénovation sont nécessaires. La basilique de Fourvière à Lyon a besoin de 5 millions d'euros pour se refaire une beauté.
Au programme de la prochaine demi-heure, Philippe Legrand s'entretient avec l'égyptologue et romancière Violaine Vanoyek. Et puis on va prendre la direction des Cévennes pour visiter les incontournables, la Bambouseraie. Et au milieu, au menu de ce midi, une pisse saladière avec Olivier Poul. Ce sera juste après la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, des maximales en hausse avec 27 degrés annoncés par Météo France en Nouvelle-Aquitaine sous un plein soleil présent aussi sur le nord et la moitié ouest.
Et météo complète à la fin du journal. Clément, on le disait, plus d'une station-service sur 5 connaît toujours des difficultés d'approvisionnement.
Oui, les mouvements de grève qui touchent plusieurs raffineries et dépôts de carburant ont été reconduits hier. La CGT Total se dit prête à entamer dès demain des négociations au sujet de la revalorisation salariale. En attendant, le blocage se poursuit. Thibault, vous étiez dans une station essence, vous avez rencontré des conducteurs agacés, inquiets et aux esprits échauffés.
Oui, dans la file d'attente, des coups de klaxon, de la tension, parce que la plupart des automobilistes craignent de ne bientôt plus du tout pouvoir prendre la voiture, notamment pour travailler. Alors l'exaspération à la pompe est encore montée d'un cran.
C'est la galère, on est en galère, quoi. Au lieu de travailler, là, on passe d'une station à une autre et là, on n'est pas tranquille, quoi.
Pas de panique, si, panique en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Comment on va rouler? Et combien de temps ça va durer?
J'ai peur qu'on puisse plus bouger, qu'on puisse plus rien faire. Si ça continue, à mon avis, dans 10 jours, la France, ça va être en stand-by.
Et les usagers demandent au gouvernement une réaction rapide, car en effet, selon Éric Cellini, coordinateur CGT du groupe Total Energy, les négociations sont au point mort.
Nous avons de nouveau tenté d'interpeller notre direction générale. Il n'y a rien qui se passe. La direction, je ne sais pas avec qui elle parle. Ça présage que le mouvement va continuer, puisque les salariés semblent déterminés à attendre cette réponse. Je pense que ça risque de continuer encore un petit moment, oui.
Et la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, précise qu'une station-service sur 5 est toujours touchée par le manque. L'Île-de-France, les Hauts-de-France sont les régions les plus impactées. La ministre qui a appelé les Français à, je cite, « faire le plein comme d'habitude et à ne pas faire de stock ».
Les précisions de Thibault Hue pour Europe 1 et la situation peut parfois dégénérer. En Haute-Savoie, un automobiliste qui a perdu patience a donné 6 coups de couteau à un autre automobiliste. L'homme est poursuivi pour tentative de meurtre. Il a été placé en détention provisoire.
Autre dossier brûlant pour l'exécutif, Clément, la réforme des retraites.
Les concertations avec les organisations syndicales commencent demain avec des discussions autour de l'emploi des seniors. Dans les colonnes du journal du dimanche, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, suggère que les plus de 55 ans qui sont au chômage et qui retrouvent un emploi moins bien rémunéré que le précédent puissent continuer à toucher une partie de leur indemnité.
À 6h34 sur Europe, on parle de Noël qui est encore loin, mais la récolte des sapins, elle, va bientôt débuter.
Oui, les premiers arbres vont être coupés d'ici quelques semaines, mais de nombreux saisonniers manquent à l'appel. L'Association française des sapins de Noël naturels tire la sonnette d'alarme. Les effectifs ne sont pas constitués et la situation est critique. Jean-Christophe Bonneron est vice-président de l'association et producteur de sapins à Montsauch-lès-Setons dans le Morvan.
Il nous manquerait bien une dizaine de candidats, facile, ouais. Sur 30. Ouais, c'est énorme. On a bien arrangé les choses, même au-delà de ce qu'on pouvait faire. Bon, on leur offre le logement, on leur offre un salaire au-dessus du SMIC, on leur passe un véhicule pour aller faire leurs achats, enfin, et ainsi de suite. Et on les materne. Malgré ça, ça ne les décide pas pour venir. Comme les restaurateurs, comme les arboriculteurs, au moment de la récolte des fruits, on a un manque de main-d'œuvre. Je pense qu'on a affaire à une catégorie de jeunes qui n'a pas été formée aux travaux extérieurs. Vous savez, c'est ça le souci qu'on a tous. C'est que tous les métiers manuels ont été décriés pendant de nombreuses années. C'était pas bien de travailler avec ses mains. Aujourd'hui, on en paye le prix. C'est une période qui est très courte, donc il faut que ça aille très vite et il nous faut toujours un certain nombre de personnes pour pouvoir faire le travail correctement. On ne pourra pas tout faire si on n'a pas les hommes en face, c'est ça.
Propos recueillis par Louise Salé pour Europe 1.
Et au mois de décembre, c'est le traditionnel cadeau de Noël justement pour les Lyonnais, l'illumination de la basilique de Fourvière.
L'édifice religieux qui domine la ville et qui vient de fêter ses 150 ans a grandement besoin d'un rafraîchissement. Toiture, charpente, voûte, éclairage, il faut plusieurs millions d'euros pour les travaux de rénovation. La fondation de Fourvière lance une grande opération de mécénat à destination des entreprises mais aussi des particuliers, Jean-Luc Boujon.
L'urgence est au niveau des quatre tours de la basilique. C'est en effet à cet endroit que les dégradations sont les plus importantes, explique Philippe Castin, président de la Fondation Fourvière, propriétaire du site.
C'est les infiltrations, ça peut être aussi une érosion de la pierre par le temps, le vent, la pluie, qui élargissent les fissures ou qui dégradent le matériau. Il y a un risque potentiel de chute de pierre, etc. On ne veut pas en arriver là. Il faut remettre en état le bâtiment et les matériaux qui sont dégradés.
L'objectif est donc de récolter le plus vite possible 5 millions d'euros afin de répondre à l'urgence, mais la rénovation concernera aussi la chapelle de la Vierge et le musée de la Basilique, ce qui nécessitera 9 millions supplémentaires, d'où le lancement d'une grande campagne de mécénat pilotée par Cyril Ballas, président de la commission Fourvière.
Bien sûr, les particuliers peuvent donner, mais ce qui est important, c'est d'avoir des sommes conséquentes, donc les entreprises, les collectivités, les fondations d'entreprises, des sièges sociaux qui sont à Paris, qui ont envie de délocaliser leurs actions sur l'ensemble de la France, seront peut-être à même de comprendre.
Total, Michelin, L'Oréal, l'appel est donc lancé aux plus grandes entreprises françaises pour sauver la basilique, devant laquelle chaque année se pressent plus de 2,5 millions de visiteurs. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et justement, des athlètes lyonnais ont été reçus hier à Paris à 2 ans des Jeux Olympiques. Le parasport était à l'honneur place de la Bastille.
Oui, un événement sportif et culturel grand public destiné à la sensibilisation et à la découverte du handicap dans le sport. Objectif, Guillaume Dominguez, se mettre dans la peau d'un athlète.
Terrain de basket, skatepark et podium d'escrime ont remplacé les scooters, les voitures et les autobus autour de la colonne de juillet. Le terrain de jeu est idéal pour les athlètes paralympiques français venus présenter leur discipline sous les regards ébahis des spectateurs.
Je trouve ça assez impressionnant de voir comment ça fonctionne quand on est athlète en situation de handicap.
Noah n'avait jamais vu de skateboard paralympique. Sous ses yeux, la jeune galloise Lily Ray s'enchaîne les figures acrobatiques avec son fauteuil.
J'ai vu qu'on pouvait s'essayer un peu aux sports qui sont sur le parvis. Je trouve ça super intéressant parce qu'on ne se rend pas compte quand on n'est pas dans la situation de la personne, ce que la personne vit en fait.
Se mettre à la place des autres, mais aussi et surtout voir au-delà du handicap, c'est le plus important pour Mehdi. Amputé des deux jambes en novembre dernier, il est aujourd'hui en passe d'intégrer l'équipe de France paralympique de kayak.
Quand je suis dans un kayak, on ne voit pas mon handicap. C'est vraiment mes bras, mes épaules, mon dos qui me permet d'avancer. On peut être athlète, handi et faire des grosses performances, même en étant handicapé.
Des performances qui, on l'espère, feront briller la France aux Jeux paralympiques. Rendez-vous donc à Paris le 28 août 2024.
Le reportage de Guillaume Dominguez pour Europe 1. Et puis un mot de Ligue 1 pour terminer ce journal. Le PSG réduit à 10 avant la pause, concède le nul à Reims. Ajaccio s'impose 2-1 face à Marseille. Les autres matchs de cette 10e journée avec notamment Montpellier-Monaco à 13h et Lille-Lens à 20h45.
Et c'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook, hein, évidemment, à 6h38 sur Europe 1. Dites-nous s'il y a de l'essence par exemple par chez vous. On vous attend.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Valérie, il y a Antoine qui nous dit qu'il fait 11 degrés déjà en Isère. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de douceur aujourd'hui?
Alors ce matin, un petit peu de fraîcheur selon les régions quand même et quelques gelées d'ailleurs dans les régions centres. Mais cet après-midi, effectivement, Nous connaissons tous des maximales qui poursuivent leur hausse, hein, bien au-dessus des moyennes de saison, jusqu'à 4 degrés. Avec à votre mercure dominical, par exemple, 27 à Bordeaux et à Pau, 26 à Biarritz et Tarbes, 25 à Brive-la-Gaillarde, 24 à Montluçon, 23 à Carcassonne, 22 à Marseille, 20 degrés à Paris, 18 à Dunkerque. Et au petit matin, donc des valeurs qui affichent 2 à 7 degrés sur la moitié nord. Donc quelques petites gelées sur le centre ou la Champagne, je le disais, 9 à 14 dans le sud, jusqu'à 18 en bord de Méditerranée. Côté ciel, le soleil qui s'impose sur les trois quarts du pays, sauf...
C'est une bonne nouvelle.
Sauf... dans l'extrême sud-est, toujours sous les averses, et des orages entre Corse et continent.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h. Une date, une histoire dans un instant avec Philippe Legrand qui reçoit ce matin Violaine Vanoyek.
Tout de suite, l'entretien de Philippe Legrand avec Continent Insolite pour des souvenirs inoubliables.
Une histoire. Donc, je vous le disais, Philippe Legrand, vous recevez ce matin Violaine Vanoyek, égyptologue et romancière. Ses découvertes sur l'Égypte des pharaons ont fait avancer la recherche historique et les premières civilisations. Bonjour Philippe.
Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. Direction l'Égypte en 2007. Bonjour Violaine Vanoyek.
Bonjour Philippe.
Romancière et historienne de l'Égypte, on dit de vous que vous êtes une égyptologue passionnée par les grandes figures des pharaons. Avec près d'une centaine d'ouvrages dédiés et de multiples traductions dans le monde, ce sont des millions d'exemplaires de succès en librairie, vous rendez accessible à tous les énigmes des pyramides. Dans cette année placée sous le signe de l'Égypte ancienne, avec l'exposition Pharaon Superstar à Marseille, mais aussi Champollion au Louvre-Lens, sans oublier les 100 ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon, Violaine Vanoyek, vos ouvrages sont réédités à l'heure où vous publiez Fou, le roman du suspense. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 27 juin 2007, le jour de l'identification officielle de la momie d'Hopchapsout. L'Égypte passionne, la chanteuse Dalida en faisait même la confidence au micro d'Europe 1.
J'ai eu la chance de visiter la haute Égypte, c'est Louxor. Et là, c'est vraiment merveilleux parce que toute la vallée de Thèbes, c'est-à-dire la ville morte, la ville des rois, c'est fantastique. Là où ils sont enterrés, toutes les fresques qu'il y a, les couleurs, c'est presque intact. C'est d'une grande beauté.
C'est d'une grande beauté, hein, nous dit Dalida, la chanteuse Dalida au micro d'Europe 1. Effectivement, la beauté, elle est, quand on parle avec vous de l'Égypte, que vous connaissez par cœur, vous l'égyptologue, Violaine Vanoyek, ces mots-là résonnent et effectivement, vous rejoignez ce qu'elle dit.
Oui, pour moi, c'est même au-delà de la beauté. Il n'y a pas de mots, si vous voulez, mais pour tout le monde antique. Mais là, en plus, on a le mystère, on a la découverte incessante. Parce qu'au fond, on a l'impression d'une matière vivante et non pas ancienne, où on découvre sans arrêt des choses et on sait qu'on a à peu près 70% encore de choses à découvrir.
Ce qui est incroyable, parce que quand on voit toutes ces expositions et quand on se déplace, on est en Égypte, là où vous allez très souvent pour vos recherches et vos études, on se dit qu'il y a tellement de trésors qui sont présentés au public que tout a été dit, ou presque. 70%, c'est considérable. Vous avez choisi, Violaine Vanoyek, de revenir sur le 27 juin 2007. C'est l'identification officielle de la momie d'Hatshepsut. Pourquoi cette date?
Alors, effectivement, parce que ça faisait très très longtemps, des années, que j'avais déclaré, avec évidemment toutes les réserves qu'imposent ces époques, hein, que la momie d'Hatshepsut devait être la momie dite obèse que l'on avait retrouvée dans la... Alors, je vais expliquer. Dans la cavée 60, la Kin Valley 60, qui est donc la tombe de la nourrice d'Hatshepsut, qui s'appelait Satré Inet. Il se trouve que la seconde tombe officielle d'Hatshepsut, donc la cavée 20, se trouve juste à côté de celle de sa nourrice. Il faut savoir qu'elle adorait sa nourrice, qu'elle considérait comme une mère, elle le dit tout le temps. Elle l'a fait enterrer dans la vallée des rois, ce qui est un honneur considérable. Et il n'est pas du tout incongru qu'elle ait été enterrée avec sa nourrice. Or, on a retrouvé les deux momies, donc au début du XXe siècle, ensemble. Alors, l'une des deux momies était dans un cercueil, c'est la momie de Satré. Elle a été transportée au Caire et la pauvre momie obèse est restée sur le sol, sans cercueil, sans rien. Mais comme elle avait le bras replié sur la poitrine, nous savions que c'était une grande épouse, au moins de la 18e dynastie.
C'est un signe. Ah, un signe important, un
très fait, très fond, important, oui, oui,
qui nous partie de ces grands personnages.
Voilà. Et donc, mais après, bon, laquelle était-elle, si vous voulez, voilà. Et pour moi, c'était Hatshepsut. Nous ne l'avons pas retrouvée dans sa première tombe, qui se trouve à 3 kilomètres de la vallée des rois. Nous ne l'avons pas retrouvée dans la seconde tombe, qui se trouve donc, comme je vous le disais, dans la vallée des rois. Et donc, probablement pour la préserver des pilleurs de tombes, elle a été placée à côté de sa nourrice. C'était en tous les cas mon analyse qui paraissait assez plausible, on va dire. Après, je n'en avais pas la preuve. Donc, la preuve, ça a été la preuve, oui, si on peut parler de preuve, mais oui, on approche de la vérité, avec la découverte d'une partie de sa molaire dans un petit coffret marqué au nom d'Hatshepsut que l'on a fait coïncider avec le morceau de dent cassée qui restait dans la mâchoire d'Hatshepsut.
Alors, qui était cette pharaone, hein, on va le dire au féminin, Hatshepsut avait une influence considérable.
Oh, Hatshepsut, c'est tellement Hatshepsut. C'est effectivement la seule pharaon de l'histoire ancienne. Elle a vraiment été acclamée pharaon. Elle devait avoir 12-13 ans à la mort de son père, alors que ses demi-frères étaient déjà morts et qui devaient succéder justement à son père. Donc elle a pris le pouvoir, elle l'a bien pris, elle a repoussé les envahisseurs de l'Égypte et elle a maintenu un pays en paix et prospère avec des expéditions et des découvertes,
oui,
des constructions, excusez-moi, pendant 22 ans.
Violaine Van Ooyek, lorsque vous partez justement, on va le dire comme ça, en exploration sur les pas de ces grands Égyptiens, de cette Égypte ancienne, vous avez toujours, m'a-t-on dit, votre stylo et votre carnet de notes. Et ce carnet de notes et ce stylo, vous l'avez aussi quand vous écrivez vos romans. Alors, ce dernier roman est assez
étonnant. Je suis étonnée quand vous ai dit ça, mais c'est vrai.
Étonnant, ce dernier roman qui est au fond assez loin de tout ce que vous avez pu écrire jusqu'à présent. Un roman en titre court aux éditions L'Harmattan. Fou, c'est son titre. Je disais en vous présentant le roman du suspense, une intrigue et de la violence.
Oui, alors on est malheureusement en plein sujet d'actualité, si je puis dire, puisqu'il est question de mettre en scène un pervers narcissique, comme on dit les médecins, le roi des pervers narcissiques. Vous savez, dans la perversion narcissique, il y a des degrés de folie, parce qu'il s'agit bien de folie. C'est des gens qui sont déséquilibrés mentalement. Alors, il y a des schizophrènes, il y a des bipolaires et autres. Mais celui-ci regroupe tous les défauts, on peut dire, du pervers narcissique avec les dangers qu'on peut courir lorsqu'on fréquente ce genre de personnes.
Merci beaucoup, Violaine Van Ooyek, d'être venue sur Europe 1. Votre roman, celui dont vous nous parlez à l'instant, s'intitule « Fou ». Avec vous, on est revenu, c'était votre date, le 27 juin 2007, on est revenu sur les pas de l'Égypte ancienne avec l'histoire d'Hatshepsut. Et on va se quitter en musique. Je suis sûr que cette chanson-là, qui est un succès de Claude François, est dans votre playlist. On va se quitter, danser peut-être aussi Alexandrie, Alexandra.
Merci Philippe Legrand.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Il est quasiment 7h10, bienvenue sur Europe 1 avec elle. Le fil info de ce dimanche matin, Clément Barguin.
Les tensions dans certaines stations essence continuent. La CGT a reconduit les grèves chez Total Energy et ExxonMobil qui touchent plusieurs raffineries et dépôts de carburant. L'organisation syndicale se dit tout de même prête à limiter ses négociations à la question des hausses de salaire. Pour ceux qui remplissent leurs cuves pour se chauffer, le gouvernement donne un coup de pouce. Les Français qui se chauffent au fioul vont pouvoir toucher un chèque de 100 à 200 euros à partir de du 8 novembre. Il faut bouger sur les retraites, bouger beaucoup, voilà ce que déclare Édouard Philippe dans les colonnes du Parisien. L'ancien Premier ministre se dit favorable au report de l'âge légal à 67 ans. Il estime qu'il faut faire davantage et aller plus vite pour réduire la dette publique. Et puis la Corée du Nord tire 2 nouveaux missiles balistiques en mer du Japon. Il s'agit de la 4e opération de ce type en une semaine. Pyongyang se justifie en évoquant les menaces militaires américaines.
Merci Clément, allez-vous restez bien avec nous, il est 7h10. Dans un instant, on part en balade avec Vanessa Zah, direction la Bambouseraie des Cévennes. Et puis, on concoctera une petite pissaladière avec Olivier Pouls. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
La balade du dimanche, Olivier Pouls et Vanessa Zah. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Pour vous dire ce qui se passe hors antenne, Olivier Pouls est déjà en train de cuisiner à côté de moi. Mais avant qu'on déguste son petit plat, on va partir en balade dans les Cévennes. C'est la 7e édition de la Journée des plantes et c'est le week-end prochain à la Bambouseraie.
Oh là, je lis dans vos yeux, Lénaïque, vous savez pas ce que c'est que la Bambouseraie.
Décortiquer.
Ça a lieu à découvrir parce que c'est l'incontournable des Cévennes et ça fait vraiment partie de notre patrimoine naturel. C'est un lieu unique en Europe. Ce site, on le doit à la passion d'un homme pour la botanique. Il l'a acquis en 1850. Mm-hmm. C'était le domaine de Prafrance, un domaine agricole dans lequel il a planté des plantes qu'il a fait venir d'Asie, d'Amérique. Il voulait acclimater des plantes exotiques comme ça se faisait évidemment à l'époque. Ouais. Et puis pour aller au bout de sa passion, il y a mis tout son cœur, tout son argent aussi. Et aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, tous les continents sont représentés à travers 1000 espèces, ce qui vaut aujourd'hui que la Bambouseraie soit un jardin remarquable parmi d'autres labels, arbres remarquables, esprit parc national. Enfin, vous avez compris, c'était vraiment une référence.
Alors, qu'est-ce qu'on voit comme arbre ?
Alors, il y a des chênes, des magnolias, des séquoias, des ifs, des érables du Japon. Il y a des ginkgos monumentaux comme ce ginkgo bilboa. Mâle qui surplombe le vallon du dragon, oui, puisqu'ils sont thématisés évidemment tous ces jardins, et celui-là est d'inspiration japonaise, et qui serait allé donc de 160 ans.
Ah oui, on a vécu.
On a vécu, on est bien d'accord, comme nous. Et les plus grands arbres culminent, alors pas comme nous, mais à 45 mètres. Donc en effet, ils sont remarquables dans tous les sens du terme, vous l'avez compris.
Alors, Bambouseraie, quand on décortique, ça donne donc bambou.
J'ai bien de
bravo comprendre. Donc, et oui, donc il y en a beaucoup.
Et oui, mais ils sont prédominants, ces bambous. Il y a 215 variétés de bambous différentes, et c'est Rodolphe Bourdin, qui est le directeur technique de la Bambouseraie, qui va nous plonger au cœur de ce théâtre feuillu. Moi, j'aime bien ce terme.
On va retrouver plusieurs types de bambous. Il y a des bambous nains, des bambous moyens, des bambous géants, avec des formes, des couleurs de chaume différentes. On a des couleurs de chaume noir, vert, jaune, vert et jaune, jaune et verte, moucheté. Enfin, voilà, c'est ce qui fait toute cette diversité. Il y a des bambous géants donc qui vont culminer à 18-19 mètres de hauteur avec des diamètres de chaume assez impressionnants. Donc c'est toute cette variété de bambous qui va créer des atmosphères différentes et avec les couleurs de feuillage aussi. Enfin voilà, c'est une diversité tout au long de la visite.
On y est là, hein ?
On y est, ça vous donne envie ou pas ?
Bien. Ah ouais, super.
Bon, alors ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce territoire des Cévennes, il est propice au développement, à l'épanouissement de toutes ces plantes, de toutes ces espèces, de ces arbres, et entre autres parce que le sol de la Bambouseraie est juste à côté donc, d'une rivière, ce qui fait qu'il est alluvionnaire, donc il est riche. Il y a aussi un microclimat, la pluie est assez abondante. Les hivers, eux, ils ne sont pas très rigoureux, il n'y a pas beaucoup de gel. Donc vous avez en effet tous les éléments pour avoir une bonne harmonie. Quoi.
Et on a une bonne raison d'y aller en particulier, alors pas forcément ce dimanche, même si on peut, mais surtout la semaine prochaine. Pourquoi ?
Voilà, c'est une journée festive qui est dédiée aux amoureux des plantes. Il va y avoir des pépiniéristes locaux et régionaux qui vont venir avec évidemment leurs plants fruitiers, leurs plantes aromatiques et médicinales, des plantes méditerranéennes, des cactés, des figuiers, je ne peux pas vous faire toute la liste. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y aura des animations, des ateliers en parallèle avec des artisans, des sculpteurs de bois. Il y a même des bouquinistes qui vont venir avec des livres naturalistes, etc. Puis des food trucks, évidemment, qui proposeront aussi des plats pour les végétariens. Ça coûte 8 euros l'entrée.
Ah, ça va. On peut y aller en famille. Où est-ce qu'on va dormir ?
Alors, comme le parc national des Cévennes a reçu le label Réserve nationale de ciel étoilé, je vous propose une nuit étoilée insolite dans des cabanes et bulles.
Ah,
bulle transparente sous les étoiles. Mais vous serez dans un petit cocon,
oui,
il fera chaud,
hein,
ne vous en faites pas.
Les enfants n'auront pas peur, etc. Merci beaucoup Vanessa. Olivier, on va évidemment rester dans les Cévennes avec l'un des produits phares. Il n'y a pas que l'huile d'olive, il y a aussi l'oignon doux.
Mais regardez, je vous en ai apporté, c'est la fin de la récolte, mais on va les trouver maintenant sur les marchés encore pendant quelques semaines et pendant quelques mois. L'oignon doux des Cévennes, le premier oignon à avoir obtenu une appellation d'origine protégée, en 2003, un oignon très particulier. Et vous parliez tout à l'heure des paysages magnifiques de votre forêt
de
bambous. Eh bien, les terrasses sur lesquelles sont cultivés les oignons doux des Cévennes valent elles aussi le détour. C'est magnifique, c'est unique au monde d'avoir ces terrasses pour la culture d'oignons. Et donc, c'est une culture qui permet d'éviter, notamment lorsque les pluies sont très très importantes, d'avoir ce ravinement. Donc ça permet une bonne gestion de l'eau et puis surtout ça permet de cultiver ces oignons en altitude à flanc de montagne. Ça leur donne, vous vous doutez bien, un goût particulièrement
unique. Alors justement, qu'est-ce qui distingue ce goût d'un oignon rose ou
jaune, etc. Alors c'est un oignon qui est très doux, qui a un taux de sucre qui est plus élevé, ouais. qui ne pique pas. C'est un oignon qui est très peu amer, qui est très délicat.
C'est pour moi.
Ah oui, c'est à manger cru ou cuit, évidemment. Et c'est un oignon qui, lorsque vous l'épluchez, ne vous fait pratiquement pas pleurer.
Ah, bah,
est-ce que vous savez pourquoi on pleure quand on épluche les oignons?
Non.
Tout simplement parce que l'oignon contient du soufre et que ce soufre se combine avec une enzyme lorsqu'on coupe l'oignon. Ça crée de l'acide sulfurique. Qui vient attaquer le liquide qui protège vos yeux et ça crée une petite irritation.
Génial.
Eh bien, vous n'en avez pratiquement pas avec le délicieux oignon doux.
On va se ruer dessus alors.
Vous pouvez y aller, exactement.
On va en profiter. On va le cuisiner comment d'ailleurs ?
Eh bien, on va le cuisiner aujourd'hui. On pourrait faire une petite pissaladière
à
l'oignon
Bonne
doux.
Idée.
Ça lui donne vraiment un côté très élégant. Alors, on va faire la pâte soi-même parce que c'est vraiment facile.
Oui.
C'est 400 grammes.
Non, mais
je vous assure que c'est vraiment facile. C'est 400 grammes de farine, 30 grammes de levure, 150 grammes d'eau, une petite pincée de sel. Et 10 centilitres d'huile d'olive. On réunit tout ça, soit à la main, soit dans le robot avec le crochet pour mixer, pour bien amalgamer la pâte. On fait une petite boule qu'on va laisser poser pendant 2-3 heures, histoire que la levure travaille. Et pendant ce temps, on va faire notre compoté d'oignon doux. Alors, 1 kg d'oignon doux qu'on a épluché, un petit peu de thym, de l'huile d'olive. On fait ça à feu très doux. Il ne faut surtout pas caraméliser l'oignon, il ne faut pas le colorer.
L'huile d'olive, hein, pas beurre salé, les nègres.
L'huile d'olive, là, pour le
coup. Jamais pas quand même.
Voilà, ça dure 20-25-30 minutes. Le liquide s'évapore et on a une jolie compotée qu'on vient poser ensuite sur notre pâte qu'on a étalée. Quelques anchois, quelques olives. Direction un four à 180-200 degrés pendant 30 à 35 minutes. Et là, vous avez une pissaladière dans les règles de l'art absolument délicieuse avec ce côté un peu plus doux, un peu plus suave de l'oignon doux des Cévennes. Vous pouvez aussi en faire un petit gratin, tout simplement.
Ouh.
On fait cette compotée de la manière dont je vous l'ai expliqué et on rajoute un peu de parmesan et quelques petites gouttes de jus de citron.
Vous êtes très
et
parmesan,
voilà.
Vous.
Mais oui, c'est vrai que ça marche très très bien sur les gratins, il faut bien le reconnaître.
Et vous en avez apporté une, donc maintenant on va se quitter.
On va manger notre
petite pissaladière. On vous retrouve la semaine prochaine et nous on se retrouve pour les infos dans un instant.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce dimanche matin pour vous réveiller. Il est 7h.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et un nouveau journal avec Wilfried De Villers. Bonjour Wilfried.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le pont de Crimée est ciblé par une attaque au camion piégé hier. Revers stratégique pour Moscou. Revers surtout très symbolique pour Vladimir Poutine alors que c'est le président russe qui a voulu la construction de l'ouvrage tout juste après l'annexion de la Crimée.
Pas question de parler de pénurie de carburant en France, dit le ministre des Transports. Clément Beaune préfère parler de tensions sur l'approvisionnement. Il se veut rassurant, vous l'entendrez.
14% de personnes en situation de handicap sont au chômage en France en cette journée mondiale du handicap. État des lieux de l'accès à l'emploi pour les handicapés. Bien, mais peu mieux faire, disent les associations.
Dans la prochaine demi-heure, nous recevons Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes. Nous parlerons des 5 ans du mouvement MeToo, alors que le procès Weinstein, Harvey Weinstein, s'ouvre demain à Los Angeles. Une tendance météo, Valérie.
Alors, une belle journée ensoleillée sur les trois quarts du pays, des averses, des Pyrénées au sud-est, des orages entre Corse et Nice et des maximales entre 16 à Gap et 27 à Bordeaux.
Et vous nous donnez le détail tout à l'heure.
Europe 1.
Wilfried, il faudra 2 mois pour remettre en état le pont de Crimée.
Voilà la première estimation de Moscou après l'explosion de ce camion piégé qui a fortement endommagé l'ouvrage hier. Si la circulation routière et ferroviaire a bien repris dans la soirée samedi, cette attaque, au-delà du côté stratégique, est aussi très symbolique pour Moscou. Nicolas Tonev, ce pont, c'est tout un symbole du pouvoir de Vladimir Poutine.
Oui, car ce pont, c'est Vladimir Poutine et sa façon de voir le monde sur le plan géostratégique. Tout d'abord, après l'annexion de la Crimée, le chef du Kremlin décide de la construction de l'ouvrage au mépris du droit international. Cela permet de privatiser la mer d'Azov aux dépens de l'Ukraine qui se fait saisir les bateaux passant sous le pont à plusieurs reprises. Le prétexte, la protection d'un ouvrage russe dans un espace devenu russe. Sur le plan personnel, le pont est aussi un objet poutinien typique. Les tsars en avaient rêvé, Poutine l'a fait. Il a présidé les 2 inaugurations, celle de 2018 pour les voies routières et puis celle de 2019 pour le chemin de fer. Des actes politiques mais aussi d'amitié, signature du système Poutine. Le bénéficiaire des 3 milliards de la construction s'appelle Arkady Rotenberg, ami intime du chef du Kremlin, devenu multimilliardaire grâce à lui et à de généreux contrats publics signés sans appel d'offres, dont celui du pont. Achat d'amitié, du monde du business, dans le système Poutine, le fait accompli est nécessaire aux yeux du monde et aux yeux des hommes forts de Russie pour s'assurer de leur soutien.
Nicolas Tonev, des bombardements. bombardements dans la ville de Zaporijjia font 17 morts, au moins des dizaines de blessés. Ils ont eu lieu jeudi, on l'a appris dans la nuit. Plusieurs missiles ont touché le centre-ville. Un immeuble a été presque entièrement soufflé. Zaporijjia toujours au centre des inquiétudes alors que la plus grande centrale nucléaire européenne se trouve à proximité.
Retour en France et le mouvement de grève des raffineurs qui a donc été reconduit hier. De quoi prolonger davantage les difficultés d'approvisionnement des stations-service.
70% de grévistes chez ExxonMobil, 100% du côté de Total Energy. Les files d'attente à la pompe ne cessent donc de s'allonger. Mais pour le ministre délégué au transport Clément Beaune, les Français ne doivent pas céder à la panique.
Il y a une inquiétude de force que le gouvernement voit et comprend évidemment. Quand on a dit, et la Première ministre l'a dit elle-même, on n'est pas dans une situation de pénurie, ça n'est pas pour ignorer les difficultés. Elles sont réelles, elles sont localisées dans un certain nombre de régions de France, notamment en Île-de-France, notamment dans les Hauts-de-France. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème d'approvisionnement général de notre pays. C'est important de le redire. Il faut être clair, c'est surtout la situation sociale qui pose problème et qui doit s'améliorer le plus vite possible. Donc on appelle vraiment à la responsabilité tout en se mobilisant. Je crois qu'on ne peut pas ajouter aux difficultés que nous connaissons tous cette difficulté supplémentaire qui est encore une fois pas liée à l'extérieur et à un problème d'approvisionnement, qui est lié à des sujets d'organisation qu'on doit résoudre.
Le ministre des Transports Clément Beaune. La réforme des retraites au cœur de l'actualité alors que le premier cycle de concertation a débuté. C'est dans ce contexte que le ministre du Travail avance des pistes pour le retour à l'emploi des seniors. Olivier Dussopt s'exprime dans le JDD aujourd'hui. Il envisage de permettre aux seniors retrouvant un emploi mais moins payé que le précédent et bien de continuer à percevoir une partie de leurs indemnités chômage. La retraite à 65, 66 voire 67 ans. Ça c'est ce que veut Édouard Philippe, le patron d'Horizon, l'aile droite de la majorité. Estime dans Le Parisien qu'il faut bouger et bouger beaucoup sur les retraites. Il prend notamment l'exemple de l'Allemagne et de l'Italie.
7h04 sur Europe 1, la suite de votre journal Wilfried de Villers. Nous sommes le 9 octobre et c'est la journée mondiale du handicap.
Un sujet majeur en France, la question de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Sur ce point, Aurélien Fleureau, les chiffres vont dans le bon sens, c'est vrai, mais encore trop lentement, estiment les associations.
14%, c'est le taux de personnes en situation de handicap au chômage. C'est encore deux fois plus élevé que le taux général de la population, mais il était de 18% en 2018. Preuve de cette amélioration, les embauches ont augmenté de 26% en un an, même si la durée d'inscription à Pôle emploi reste plus longue, puisque malgré une volonté d'inclusion, les freins sont nombreux, adaptation de postes coûteuses, peur de la différence, crainte sur les performances. Résultat, une majorité d'entreprises n'atteignent pas le quota de 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs et par conséquent paie une taxe. Plusieurs dispositifs permettent d'améliorer cette situation. L'apprentissage, dont le chiffre qui partait de très bas a tout de même bondi de 79% en deux ans. Et puis il y a aussi l'emploi adapté. Les établissements ou services d'aide par le travail, ESAT, pas forcément une solution privilégiée par les défenseurs du tout inclusif, mais un vrai tremplin vers l'emploi selon le GAPAS, organisme qui accompagne les personnes en situation de handicap.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, et j'en profite pour vous annoncer que pour parler du handicap, c'est Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, qui sera mon invitée dans Europe Midi. 7h05 sur Europe 1, tout autre chose à présent, du sport ou presque, en tout cas, quand les youtubeurs et les streamers se mettent à la Formule 1. J'espère que tout le monde a bien compris la phrase.
Attention à la Formule 4. Ça s'est passé hier sur le circuit Bugatti du Mans. La Formule 4, c'est un cran en dessous hein, de la Formule 1. Le Grand Prix, donc Explorer. L'idée, eh bien, c'est de réunir des stars du web pour 15 tours de piste, Lucas Courtin.
Oui, un projet fou à plus de 3 millions d'euros, celui de faire concourir 22 influenceurs issus d'Internet sur des F4, ces voitures moins puissantes que les F1 et qui servent à l'apprentissage des jeunes pilotes. Après des mois de préparation, alors que certains n'avaient même pas le permis, ce Grand Prix inédit a tenu toutes ses promesses. En immersion totale avec les pilotes comme chez les professionnels, la victoire est revenue dans le dernier virage à Sylvain Lévy de la chaîne YouTube Villebrequin, spécialisée dans l'automobile. Un souvenir inoubliable pour les 40 000 spectateurs présents sur le circuit, mais aussi pour plus d'un million de personnes qui ont suivi l'événement en direct sur la plateforme de diffusion Twitch. Tout simplement un record en France, mais aussi dans le monde. Un engouement inimaginable, surtout pour son organisateur Squeezie, l'un des plus grands youtubeurs de France, qui était d'ailleurs très ému au moment de s'adresser au public.
C'était sans doute l'un des plus beaux jours de ma vie, très honnêtement. Merci vraiment de vous être déplacé. Merci d'être venu nous voir. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'événement. C'est grâce à vous tous.
Après un tel succès, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aura une deuxième édition de ce Grand Prix Explorer ? Réponse l'an prochain.
Lucas Courtin du service sport d'Europe 1.
Et c'était le journal de Wilfried de Villers. Merci Wilfried.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Valérie Darmon, il va faire quel temps aujourd'hui ?
encore plus ensoleillé qu'hier, avec en plus des températures qui suivent le mouvement et qui sont en hausse cet après-midi, élevées pour la saison, 2 à 3 degrés au-dessus des moyennes. Sur la moitié sud, il fera généralement 18 à 25 du nord au sud, avec des maximales à 27 en Aquitaine, mais aussi 26 à Cahors et à Agen, 25 à Angoulême et Brive-la-Gaillarde, 24 à Périgueux et à Limoges, 23 à La Roche-sur-Yon, 22 degrés à Clermont-Ferrand et à Auxerre, 21 à Châteauroux, 20 degrés à Paris, à Beauvais et à Lyon, 18 à Dunkerque, et ces valeurs qui sont un petit peu fraîches ce matin dans l'Est, donnant même quelques gelées. Du côté du ciel, la France se situe donc entre un anticyclone sur l'Allemagne et un système un petit peu dépressionnaire sur l'Atlantique. Résultat, donc, on a un temps très ensoleillé, très doux cet après-midi sur les trois quarts du pays, mais des retours d'Est avec des pluies soutenues et des orages sur la Corse. Évidemment, c'est le bémol de la journée, et des averses aussi, des Alpes au Roussillon, tandis qu'ailleurs, c'est toujours le beau temps.
Merci beaucoup Valérie Darmon, il est 7h08 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Dans un instant, je reçois Anne-Cécile Maillefer. Elle est présidente de la Fondation des Femmes. Elle viendra nous dresser le bilan 5 ans après le hashtag MeToo. À tout de suite.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Le mouvement MeToo a donc tout juste 5 ans après la déflagration de l'affaire Weinstein. L'ex-producteur de cinéma qui a été condamné à New York sera d'ailleurs à nouveau jugé dans un procès pour viol et agression sexuelle à partir de demain lundi à Los Angeles. Anne-Cécile Maillefer, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes présidente de la Fondation des Femmes. Alors on dresse le bilan de ces 5 ans de MeToo. J'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que vous naviguez toujours un peu entre espoir et déception ?
C'est exactement ça. MeToo, ça a été un immense espoir il y a 5 ans, et d'ailleurs un espoir qui continue, un espoir basé sur le fait que la société a encouragé les femmes, pour la première fois peut-être de son histoire, à parler des violences sexuelles. La société aussi, elle a permis de faire en sorte que les femmes, elles aient plus confiance, qu'elles puissent aller de manière beaucoup plus systématique à la police porter plainte, et ça s'est traduit par plus de plaintes. Mais la déception, elle est en termes de changement dans les institutions, de qu'est-ce qui se passe avec ces plaintes, de qu'est-ce qui se passe avec ces témoignages. Et là est la déception, parce que à la fois au niveau judiciaire, il n'y a jamais eu aussi peu de condamnations pour viol, donc il y a moins de violeurs condamnés aujourd'hui qu'avant MeToo, ce qui est quand même assez sidérant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a encouragé les femmes à parler, mais à parler à qui ? En réalité, les associations aujourd'hui, elles ont très peu de moyens, elles ont toujours aussi peu de moyens qu'avant MeToo. Il n'y a pas eu d'augmentation budgétaire vraiment à la hauteur de la libération de la parole des femmes. Et il y a beaucoup d'associations qui se retrouvent obligées de dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas, qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles n'ont pas les moyens de bien les écouter, de bien les accompagner.
Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait améliorer justement la prise, le recueil de la parole de ces femmes ? Ça commence par quoi ?
Alors améliorer le recueil de la parole des femmes, c'est d'abord évidemment soutenir le travail des associations, parce que c'est elles vraiment qui font le plus gros travail d'accompagnement psychologique et juridique des femmes. Et puis ensuite, pour celles qui veulent porter plainte, c'est pas toutes, mais pour celles qui veulent porter plainte, il faut absolument améliorer la manière dont ça se passe au niveau de la police et au niveau de la justice. Et là, nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est une police et une justice plus spécialisées, c'est-à-dire évidemment les former, mais diriger les victimes vers les personnes qui sont les plus volontaires et les mieux formées et les mieux spécialisées, qui ont l'habitude de ce genre de situation, pour pouvoir mieux enquêter et mieux juger ensuite, et faire en sorte qu'il y ait plus de condamnations, que les femmes puissent être reconnues en tant que victimes et dans leurs droits.
Alors comment est-ce que vous expliquez que certaines femmes ne parlent toujours pas, ou alors après les délais de prescription ?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les violences sexuelles, le viol, l'inceste en particulier, peuvent générer des traumatismes tels qu'en fait les victimes, elles vont perdre la mémoire. Et elles peuvent retrouver la mémoire des années, des dizaines d'années plus tard. Et donc elles peuvent se remémorer. La mémoire va les enfouir tout au fond de la mémoire parce que c'était trop difficile. Et ça va ressortir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Et donc ça, pour celle-là, c'est impossible en fait de porter plainte à ce moment-là, de porter plainte dans les délais de la prescription. Et puis il y en a d'autres qui sont dans des situations personnelles qui font que ce n'est pas forcément simple de porter plainte à ce moment-là, parce qu'elles sont en couple, qu'elles n'osent pas le dire à leur conjoint, que pour des tas de raisons, vraiment des tas de raisons, les femmes ne sont pas forcément dans les délais de la prescription.
Est-ce que vous vous sentez soutenue d'un point de vue politique, ou est-ce que vous trouvez que ça reste encore très, très fragile tout ça ?
Je pense que ça reste très fragile. Je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé dans la société, de ce changement fondamental, vraiment fondamental dans la société, du fait que les gens aujourd'hui en France ont vraiment envie que ça s'améliore pour les femmes victimes, pour les femmes. Et ça, le gouvernement n'en a pas pris conscience. Il n'a pas changé les choses au niveau de la police, il n'a pas changé les choses au niveau de la justice. Il a sûrement peut-être pensé que MeToo, ça allait être une mode, un effet de mode, ça allait durer quelques mois, un an, tout au plus. Il n'a pas revu vraiment en profondeur, à la hauteur du changement sociétal qu'a été MeToo et qui est toujours MeToo. Et quand on le voit 5 ans après, les femmes sont toujours plus nombreuses à porter plainte, toujours plus nombreuses à appeler les associations. Ce qui s'est passé au niveau de MeToo, ça n'est pas fini et ça ne va pas finir parce que ce genre de tabou, lorsqu'il est levé, on ne peut plus fermer les yeux.
D'autant qu'on voit que ça s'organise même, hein, MeToo théâtre, cinéma, dans les entreprises, dans les grandes écoles également. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un changement sociétal. Hein.
Le changement sociétal, il est partout. MeToo, ça a touché toutes les classes sociales, ça a touché tous les milieux, ça a touché les campagnes, ça a touché les villes. Effectivement, il y a eu du MeToo gay, du MeToo inceste, du balance ta robe pour les avocates, etc. Donc ça a vraiment, tout le monde s'est interrogé pour se dire, mais en fait, et moi, et dans ma profession, et dans mon école. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, la force de MeToo, c'est vraiment cette expérience à la fois individuelle de violence et cette expérience collective des femmes qui se sont rendues compte qu'en fait, elles étaient généralement, globalement dans la société, plus en risque d'être victime de violences sexuelles dans les différents endroits qu'elle fréquente.
Alors, je vous ai lu l'autre jour, vous avez tweeté plutôt que d'échanger des noms d'oiseaux dans l'hémicycle, toutes les députées pourraient se mettre d'accord, voter le milliard. Ça vous agace que le débat politique se résume à ces polémiques ? C'est le nerf de la guerre, on le sait, c'est ce fameux milliard, c'est l'argent, c'est ça que réclame aussi l'opposition notamment.
Moi, ce qui m'agace, c'est le manque de sincérité dans ce combat. C'est un combat qui est grave, c'est des violences, ce sont des crimes qui sont massifs en France. On a besoin de sincérité dans ce combat. Et donc, ce qui m'agace par-dessus tout, c'est l'utilisation politicienne des violences faites aux femmes pour justement des fins personnelles, des fins politiciennes, pour taper sur un parti, pour taper sur l'autre. On est en train de parler de quelque chose de grave, il y a urgence à agir. Donc, c'est pour ça, ce que je souhaite, c'est que les députés qui vont voter à partir de la semaine prochaine le budget pour la France, s'ils veulent vraiment montrer que les violences faites aux femmes, pour eux, c'est important. Ils ont une manière très simple de le faire à partir de la semaine prochaine. Et de manière non partisane, c'est de voter tous ensemble un budget plus important pour soutenir le travail des associations qui, tous les jours, accompagnent les femmes victimes de violences.
Et vous lancez une campagne qui s'appelle, d'ailleurs, on a un hashtag qui est sur le compte Twitter de la Fondation des Femmes, Plus Jamais Seules, c'est bien ça?
Les femmes, lorsqu'elles sont victimes et lorsqu'elles vont commencer à parler, elles vont pouvoir en parler avec leur entourage ou à la police ou à la justice et elles vont, de manière malheureusement trop fréquente, se retrouver seules avec des poncifs sur la culture du viol. C'est-à-dire, mais t'étais habillée comment ? Mais t'es vraiment sûre de ce qui s'est passé ? Et en fait, sans les associations, des milliers de femmes en France se retrouvent seules avec leur vécu et sans personne pour les comprendre, sans personne pour les accompagner convenablement. Donc nous, on souhaite lever des fonds. Faites un don sur fondationdesfemmes.org pour qu'on puisse financer partout en France des écoutantes, des psychologues et des juristes qui vont accompagner ces femmes de manière professionnelle et les aider déjà à aller mieux et aussi à faire en sorte qu'on leur rende justice.
Eh bien, le message est passé ce matin sur Europe 1. Merci Anne-Cécile Maillefer. Merci à vous. Bon dimanche.
Merci.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 7h18, on fait le point sur l'actualité express avec vous, Wilfried De Villers.
L'Algérie, premier déplacement à l'étranger pour Elisabeth Borne. La première ministre doit arriver ce matin dans le pays pour une visite de 2 jours sous le signe d'un réchauffement des relations franco-algériennes. Elle est accompagnée d'une quinzaine de ministres. Sur la table, 2 dossiers prioritaires, les hydrocarbures pour la France et la question des visas pour l'Algérie. Il faut bouger sur les retraites et bouger beaucoup, déclaration d'Édouard Philippe dans Le Parisien. Il propose de faire passer l'âge légal de la retraite à 65, 66, voire 67 ans, en prenant l'exemple de l'Allemagne ou de l'Italie. À l'international, 2 mois, c'est le temps qu'il faudra pour réparer le pont de Crimée. Premières estimations de la Russie après l'attaque hier au camion piégé. La circulation a repris progressivement en fin de journée samedi, mais l'ouvrage reste très endommagé. De nouveaux tirs de missiles nord-coréens cette nuit, quelques heures après des manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis. C'est le 7e tir de missile en 2 semaines. La semaine dernière, l'un de ces missiles était passé au-dessus du Japon. Et puis, côté sport, les leaders de la Ligue 1 tenus en échec hier, le PSG face à Reims 0-0 et l'Olympique de Marseille battu 2-1 par Ajaccio. C'est la première défaite des Marseillais depuis le début de la saison.
Merci beaucoup Wilfried De Villers. Vous revenez pour le journal de 8h. Il est 7h20 sur Europe 1. L'heure de retrouver dans un instant Mathieu Alterman. C'est l'une de vos chroniques préférées. Il va nous expliquer pourquoi le métro est si bien ancré dans la pop culture. À tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Lénaïque Monnier.
Mathieu Altermain est arrivé en métro ce matin. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous nous dites que le métro c'est pop.
Bah évidemment, il fait tant partie du quotidien des franciliens que nous ne le regardons plus, hein, blasés que nous sommes. Mais pourtant, le métro inspire musiciens, réalisateurs à travers de nombreux succès. Parmi les plus célèbres, le groupe Téléphone qui en 1977 sort Métro c'est trop sur son premier album dont la pochette est prise et bah, devant un wagon. Mais... En 1985, le film Subway de Luc Besson devient un phénomène générationnel, entièrement filmé sous terre et bercé par cette chanson composée par Eric Serra et interprétée par Arthur Sims, mais liée encore au groupe Téléphone, puisque les paroles sont signées Corinne Marienneau, bassiste du groupe. Enfin, plus près de nous, Kenji Girac et Maître Gims se rencontrent sur Dernier Métro.
Et le cinéma français a beaucoup tourné hein, sur les rails et pour des films mémorables.
Des centaines, parmi lesquels Zazie dans le métro, une petite provinciale rêve de le découvrir. Le dernier tango à Paris, dont les images d'un Marlon Brando au bout du rouleau hantent toujours le pont Bir Hakeim. Ou Peur sur la ville, dans lequel Jean-Paul Belmondo monte sur le toit des wagons de la ligne 6. Mais je pourrais également citer Le Samouraï avec Alain Delon, Les Bronzés font du ski, Buffet froid avec Michel Serrault, Possession avec Adjani, Diva marche à l'ombre ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Alors ça c'est pour notre cinéma. Nous, est-ce que chez les Américains, dans le cinéma américain, c'est pareil ?
C'est tout pareil à Chicago dans les Blues Brothers. Ou à New York, dans l'impasse et Spider-Man. Alors certes, le métro parisien a perdu de son lustre si moderne des années 70-80, mais il reste un formidable terrain de jeu pour qui veut filmer et chanter cet univers ô combien précieux et qui nous relie, à savoir le réel. Fêtons le métro et dansez donc avec moi, Lénaïque, sur cette air funky et tellement cool de notre enfance.
Ah bah ouais, évidemment. On va danser, Mathieu. Bon dimanche.
Bon dimanche.
Europe 1.
Les notes secrètes comme chaque week-end sur Europe 1. Bonjour Fabrice Laffitte.
Bonjour Lénaïque.
Ce matin, on va suivre l'étonnant cheminement de la chanson Torn.
Cela débute en 1993 lorsque Anne Priven et Scott Cutler, membres de Enaswap, un groupe de rock alternatif originaire de Los Angeles, composent ce morceau. Bien entendu, il faut maintenant le vendre aux maisons de disques et pour cela, Anne Priven enregistre une démo. Malheureusement, cette maquette ne trouve pas preneur, mais tombe quelques semaines plus tard, totalement par hasard, entre les mains d'un producteur danois. Les paroles sont adaptées dans cette langue par Elisabeth Nielsen, et voici en 1993 la première version commerciale de Torn, qui dans la bouche de Lee Sorensen devient Brent. Reconnaître, c'est sympa, mais cette chanson ne dépassera pas les frontières du Danemark. Ayant écho de cette interprétation, ses auteurs Anne Priven et Scott Cutler tentent leur chance à leur tour avec leur groupe Enaswap.
Sauf que là, Fabrice, bah, c'est encore raté.
Des États-Unis, nous retournons en Europe, et plus précisément en Norvège, où une chanteuse locale répondant au nom de Trine Rein enregistre sa propre mouture en anglais, sans plus de succès, même si son titre se classe 10e des ventes locales. That's what's going on. En 1997, le producteur anglais de The Cure, Phil Tornalley, tente sa chance avec cette chanson. Il contacte Nathalie Imbruglia, une jeune actrice australienne, et lui propose de reprendre ce titre. À l'époque, Nathalie Imbruglia vient de rompre avec David Schwimmer, alias Ross, dans la série Friends. Et la chanteuse, alors âgée de 22 ans, qui vit à Londres, espère faire une carrière dans la musique. Elle accepte la proposition et enregistre cette chanson le 3 septembre 1997. À sa sortie, ce titre est totalement boudé par les radios américaines, mais plaît aux médias européens. Cette 5e tentative de Torn est un véritable succès.
Torn,
C'est la voix de Nathalie Mbruguéa, Thorn, qui vous réveille ce matin sur Europe 1. Titre sorti le 27 octobre 1997. Un disque qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, rien que ça, dans le monde. Merci Fabrice Lafitte.
Bon dimanche.
Bon dimanche à vous. Vous restez bien avec nous. Les infos arrivent.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et on est ravis de vous accueillir ce matin, ce dimanche, sur Europe 1. Il est 7h30, l'heure du journal avec vous, Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. L'explosion du pont de Crimée, un revers de plus pour l'armée russe. Le président Volodymyr Zelensky, lui, ironise.
C'est le premier voyage officiel à l'étranger de la première ministre. Elisabeth Borne se rend à Alger pour relancer la coopération franco-algérienne.
Et puis dans les rangs de la police judiciaire, la gronde ne faiblit pas. Le projet de réforme du gouvernement suscite une levée de bouclier.
Au programme de la prochaine demi-heure, ça va vous parler parce qu'on va évoquer le démarchage commercial bientôt interdit pour les numéros de téléphone qui commencent en 06 ou 07. Et puis juste avant le journal de 8h, la chronique immobilière de Christophe Bordet. Les appartements à louer sont de moins en moins nombreux. Mais avant cela, tendance météo, Valérie.
Eh bien, la fraîcheur est marquée ce matin, mais cet après-midi promet d'être douce. Vous profitez d'une très belle journée ensoleillée sur les trois quarts du pays.
Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal. C'est donc un nouveau revers pour la Russie. L'explosion sur le pont de Crimée fait au moins 3 morts et cause de nombreux dégâts.
Ouais, c'est le symbole de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Une partie de ce pont automobile et ferroviaire a été détruite hier matin. La circulation n'a pu reprendre que partiellement. Les autorités russes annoncent avoir déjà trouvé l'identité du conducteur du camion piégé à l'origine de l'explosion. Pourtant, du côté de Kiev, Volodymyr Zelensky prend la nouvelle avec plus de légèreté, Chloé Lagadou.
Un épais nuage de fumée noire et des flammes sur le pont de Crimée après l'explosion d'un camion piégé hier matin. Résultat, le principal axe routier qui relie la péninsule annexée à la Russie est endommagé. Un nouveau coup dur pour Moscou qui prend cette explosion très au sérieux. Une enquête criminelle est déjà ouverte. En revanche, côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky n'a pas fait de déclaration officielle. Il s'est contenté d'ironiser en évoquant la météo en Crimée.
Cette journée était une magnifique journée. Il y avait du soleil quasiment partout dans le pays. Malheureusement, c'était nuageux en Crimée, même s'il faisait chaud. Mais quels que soient les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Ils savent que notre avenir est ensoleillé. C'est un avenir sans envahisseurs sur tout notre territoire, en particulier en Crimée.
Mais malgré cette touche d'humour, le gouvernement ukrainien dément être à l'origine de l'explosion et privilégie plutôt une piste russe.
Les précisions de Chloé Lagadou en Ukraine, où la centrale nucléaire de Zaporijjia a perdu sa dernière source d'alimentation électrique externe en raison de nouveaux bombardements. C'est ce qu'indique l'Agence internationale de l'énergie atomique.
C'est son premier déplacement à l'étranger. Elisabeth Borne se rend en Algérie et elle n'y va pas seule.
Oui, pas moins de 16 ministres et chefs d'entreprise accompagne la Première ministre pour ce voyage officiel de 2 jours. Arthur Delaborde, il s'agit là de concrétiser la réconciliation scellée par Emmanuel Macron et son homologue Abdelmadjid Tebboune il y a un peu plus d'un mois.
Oui, après les bonnes intentions affichées fin août, Matignon l'assure, ce déplacement doit donner à la relation une impulsion nouvelle, tournée vers l'avenir et des projets concrets. Plusieurs thématiques sont à l'ordre du jour, histoire et mémoire, jeunesse, mobilité, partenariat économique et scientifique. Elisabeth Borne en parlera directement avec le Premier ministre algérien. Elle participera aussi au comité intergouvernemental de haut niveau, une sorte de conseil des ministres franco-algériens, réunion qui n'a pas été convoquée depuis décembre 2017 à cause des tensions entre Paris et Alger et de l'épidémie de Covid. À cette occasion, plusieurs accords devraient être signés en matière économique, d'éducation ou de transition énergétique. Officiellement, comme en août dernier, le sujet du gaz algérien n'est pas au menu des discussions, mais il sera évidemment dans toutes les têtes, tout comme la question sensible des visas.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Elisabeth Borne qui suit en parallèle la situation dans les stations-service.
Oui, le retour à la normale, ce ne sera pas pour tout de suite. La CGT a reconduit les grèves chez Total Energy et ExxonMobil qui touche plusieurs raffineries et dépôts de carburant. L'organisation syndicale se dit tout de même prête à limiter ses négociations à la question des hausses de salaire.
Autre dossier sensible pour le gouvernement, la crise dans la police judiciaire.
La réforme, le projet de réforme porté par Gérald Darmanin n'en finit pas de faire des remous. Éric Arella, le patron de la police judiciaire pour le sud de la France, symbole de la contestation, a été évincé, provoquant un tollé. Cette réforme souhaite réorganiser la PJ, non plus en grande zone géographique, mais département par par département. Les policiers craignent de se retrouver noyés par la gestion de la délinquance du quotidien. François Bersari est le porte-parole du syndicat SGP Police pour l'Île-de-France.
La seule solution qui semble avoir été trouvée, c'est de départementaliser la police nationale, d'utiliser des personnels très spécialisés, que ce soit en police aux frontières ou en PJ, pour traiter la délinquance du quotidien. Mais tous ces spécialistes que sont les policiers des brigades criminelles, des offices anti-stupes, eux, ils ont une spécificité, ils ont une technicité. Et vouloir les utiliser pour traiter la délinquance de masse du quotidien, ils vont perdre de leur technicité. Donc aujourd'hui, il faut que le ministre de l'Intérieur nous reçoive en urgence, c'est ce qui est demandé, et surtout qu'il arrive à comprendre que départementaliser la police ne réglera rien. En fait, ce n'est pas en modifiant un organigramme qu'on va régler le problème de fond de l'investigation en France.
François Bersari, porte-parole du syndicat SGP Police pour l'Île-de-France.
À 7h35, pardon, on termine ce journal avec du sport. Pour cette 10e journée de Ligue 1, le PSG s'est montré en difficulté face à Reims.
Ouais, les joueurs de Christophe Galtier n'ont pas fait mieux qu'un match nul, 0-0. Il faut dire qu'ils ont joué toute la deuxième mi-temps en infériorité numérique. Les Parisiens n'ont pas réussi à garder leur sang-froid, signe d'un début de fébrilité, Cyril Delamorinerie.
Oui, le PSG perd ses nerfs. D'abord, Sergio Ramos, expulsé en première période pour contestation, le 28e carton rouge de sa carrière. Ensuite, Neymar, entré en jeu, sanctionné pour un mauvais comportement. Ou encore, Kylian Mbappé en fin de match, la star parisienne qui a poussé un joueur rémois aurait pu écoper d'un carton rouge. Action qui a débouché sur un début de pugilat que l'arbitre a abrégé en sifflant la fin de la partie. Des joueurs parisiens qui, malgré leur expérience, ont manqué de maîtrise, ce que regrette leur entraîneur Christophe Galtier.
Nous, on est sur les enchaînements de matchs et j'ai trouvé que les joueurs étaient très nerveux. Il y a eu beaucoup de discussions, quelquefois des excès d'engagement. À force de nervosité et de frustration, le match a dégénéré et il aurait fallu que ce match-là soit beaucoup mieux maîtrisé par tout le monde du football et malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Paris reste invaincu en Ligue 1, mais les hommes de Christophe Galtier, on l'a vu à Reims, ont de plus en plus de mal à régner en maître sur les terrains. C'est le deuxième match nul consécutif pour Paris et c'est la première fois que les Parisiens ne marquent pas dans un match depuis le début de la saison. L'entraîneur du PSG reste cependant serein, mais les coéquipiers de Kylian Mbappé ont tout intérêt à retrouver leur sang-froid mardi prochain pour la réception du Benfica Lisbonne en Ligue des Champions.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1, et puis la suite de cette 10e journée de Ligue 1 avec notamment Montpellier-Monaco à 13h et Lille face à Lens, ce sera à 20h45.
Le derby du Nord à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, bien sûr. Merci Clément Barguin.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Valérie Darmon, c'est une belle journée d'automne qui nous attend.
Effectivement, même s'il fait un petit peu frais ce matin, avec 5 à 10
degrés. 7 au Mans, nous dit Guy.
Bah voilà, ouais. Exactement. Eh bien, 5 à 10, c'est exactement ça. Il est pile poil au milieu quasiment, avec de petites gelées blanches dans le Grand Est. Il fait plus doux au sud de la Garonne, où le mercure affiche 10 à 13 au lever du jour. Et cet après-midi, comptez entre 18 des côtes de la Manche à l'Alsace et 25 à 27 en Nouvelle-Aquitaine, où le ressenti sera même estival en plein soleil. 26 donc annoncé à La Réole et à Andaille, 25 à Argelès, 22 à Paimbœuf, 21 à Meaux par exemple, hein, 19 à Noyon et 15 à Barcelonnette. En région parisienne et dans le Lyonnais, 20 degrés. Et puis du côté de Bordeaux, donc à côté de Bordeaux, 27 degrés. Côté ciel du Roussillon au nord de Rhône-Alpes, il fait moins beau, le ciel y est voilé. Le vent marin et l'OTAN soufflent à 50 km/h en rafale dans leur domaine. De la Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Corse, nuages, averses, pluie au programme de ce dimanche. Et puis sur l'ouest de la Corse, ces pluies qui peuvent même prendre un caractère orageux marqué, sinon c'est grand beau.
Merci beaucoup Valérie Darmon, 7h38 sur Europe 1. Que lit-on dans le JDD ce matin ? Bonjour Stéphane Alboui.
Bonjour Lénaïque.
Vous êtes le directeur de la rédaction du Journal du Dimanche et ce week-end à la une de votre journal, sale temps pour les automobilistes.
Effectivement, l'heure de la transition écologique a sonné et nous publions un dossier qui montre à quel point les Français hésitent encore sur la route de la décarbonation. Alors, disons-le en préambule, la nécessité de passer à des modes de transport moins polluants ne fait plus aucun doute. Les climato-sceptiques sont passés de mode. Mais une fois que ce constat est posé, il faut bien reconnaître que les automobilistes ne savent plus à quel sein se vouer. D'abord, nous revenons sur le contexte très particulier de ces derniers jours qui, on l'espère tous, ne va pas durer, mais bouscule un peu le discours écologiste. En effet, pour la plupart des conducteurs, la préoccupation du moment n'est pas de rouler plus vert, mais bien de mettre de l'essence dans son réservoir. Et pour ce week-end, cela s'avère très compliqué dans de nombreuses régions. Une fois que cet obstacle sera franchi, notre enquête montre bien que les automobilistes ne sont pas encore préparés aux révolutions qui les attendent. À l'horizon 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants vont devoir mettre en place des zones à faible émission, des ZFE, dans lesquelles des millions de voitures, et notamment les diesels, seront interdites de circulation en raison de leurs émissions polluantes. Nous révélons un sondage qui rappelle tout d'abord que la voiture reste indispensable à 75% des Français pour se rendre au travail. Mais aussi que 51% d'entre eux ignorent dans quelle catégorie se situe leur voiture et, plus inquiétant, que 42% disent vouloir circuler avec, même si elle est interdite. Le travail de pédagogie autour de la transition écologique ne fait que commencer.
Alors Stéphane, vous abordez un autre sujet autour duquel le gouvernement va devoir faire œuvre de pédagogie. On parle de la réforme de l'assurance chômage et de la retraite.
Oui, nous avons rencontré le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui pilote ces deux réformes sociales. Et l'entretien que nous publions va sans doute susciter quelques réactions. Alors, il nous rappelle tout d'abord que l'heure est à la concertation et que les prochaines semaines vont permettre de débattre avec les partenaires sociaux pour présenter un projet avant la fin de l'année et une mise en œuvre à l'été 2023. Voilà pour la méthode qui se veut un peu plus participative que ce que certains redoutaient il y a encore quelques jours. Mais ce sont les pistes de réflexion du ministre qui pourraient bien provoquer des remous, notamment concernant le taux d'emploi des seniors. Olivier Dussopt estime par exemple que certains dispositifs peuvent être perçus comme des encouragements pour les employeurs à se séparer des seniors. Il cite notamment la durée maximale d'indemnisation chômage qui, à partir de 55 ans, passe de 24 à 36 mois et qui, selon ses termes, peut être vue comme une voie de délestage. En creux, il pose la question de raccourcir la durée d'indemnisation pour motiver un retour au travail plus rapide des plus de 55 ans. Une proposition qui promet des débats serrés avec les syndicats.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Bon dimanche à vous, restez avec nous. Valérie Darmon et Roland Pérez me rejoignent dans un instant. On va parler notamment de ces fameux numéros en 06 et 07 qui nous harcèlent au téléphone. Eh bien, Roland Pérez nous dira que c'est bientôt terminé. À tout de suite.
Réveillez-vous.
Informez-vous.
Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et avec Ça vous concerne, comme tous les dimanches, Roland Pérez et Valérie Darmon qui sont en ma compagnie. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, les questions d'actualité juridique. D'abord, Roland, parce qu'on a tous eu envie de jeter notre téléphone par la fenêtre à force d'être harcelé par le démarchage commercial. Vous avez une bonne nouvelle, puisqu'il va y avoir de nouvelles dispositions prises par l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Il était temps.
Oui, il était temps. Alors, à partir du 1er janvier 2023, c'est fini pour les plateformes de démarchage commercial. Elles ne pourront plus vous appeler à partir de numéros qui commencent par le 06 et le 07, qui est associé évidemment dans l'esprit de tout le monde à des particuliers, à des téléphones portables. Elles devront utiliser un numéro qui commence par le 09. C'est une nouvelle catégorie qui a été réservée à cet usage selon une décision récente de l'ARCEP. Et puis, je vous l'ai dit, le 06 et le 07 sont réservés aux communications interpersonnelles et donc aux particuliers. Et c'est donc fini pour le démarchage commercial.
Alors, on sait pourquoi les plateformes de démarchage commercial utilisaient ce type de numéro, Roland ?
Ben oui, pour obtenir un meilleur taux de réponse. Ouais. Et elles vont devoir passer dorénavant par une nouvelle catégorie de numéros commençant par le 0937, 0938 ou le 0939.
Il y avait des abus ?
Oui, beaucoup d'abus et des fraudes aussi. Et ainsi, avec cette nouvelle catégorie de numéros en 09, la nature commerciale de l'appel pourra être clairement identifiée. Et puis, l'autorité veut également éviter l'épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres, commençant justement par le 06 ou le 07.
Alors, deuxième question, là ça va ravir les amis des animaux que nous sommes tous dans ce studio, avec un délai de réflexion imposé à tous les futurs acquéreurs d'animaux. Ça veut dire quoi exactement ?
Alors, ça veut dire qu'il va falloir attendre 7 jours avant d'accueillir chez vous un chat, un chien ou un lapin. D'accord. Que vous souhaitez acheter ou adopter. Vous devrez désormais signer, et c'est très bien, un certificat d'engagement et de connaissance. Alors, on va vous informer avec ce document sur les besoins et les comportements de votre animal de compagnie, le coût de son entretien, sur l'obligation d'enregistrer son identification. On ne pourra plus dire « on ne savait pas, c'est trop de travail, on veut que vous réfléchissiez ».
Une sorte
on
de période d'essai pour savoir si on peut s'habituer les uns aux autres.
Cette période de réflexion.
Donc c'est pour éviter les achats d'impulsion, j'imagine. Hein.
Exactement.
Alors, et pour ceux qui adoptent un animal auprès d'un refuge ou auprès d'une famille qui veut s'en séparer, c'est la même chose ?
Pareil. Si vous l'adoptez ou si on vous le cède gratuitement, vous devez désormais avoir signé 7 jours auparavant un certificat d'engagement et de connaissance avec une mention manuscrite précisant expressément que vous respectez les besoins de cet animal. C'est un décret d'ailleurs du 22 juillet 2022.
Ça évite les foires aux animaux. Oh maman, il est trop mignon, on l'embarque. Et puis effectivement, après quand les vacances arrivent, c'est un peu compliqué.
qui le donne ce certificat, Roland ?
Alors, ce certificat va être rédigé par un vétérinaire, un éleveur, d'un responsable de refuge ou d'association de protection animale. Et ce n'est pas forcément la personne qui cède l'animal qui va pouvoir faire ce certificat. Il faut que ce soit vraiment un professionnel où on aura les besoins physiologiques de l'animal, ses besoins comportementaux, les obligations relatives à son identification, les coûts, je l'ai dit, et les implications logistiques.
Merci Roland. On va rester dans le concret, Valérie, avec vous, avec tous ces petits gestes à faire. C'est la campagne gouvernementale qui commence d'ailleurs demain pour faire baisser notre consommation énergétique. Je pense par exemple au frigo, lave-linge, chauffage, etc., etc.
Et oui, vous auriez pu rajouter aussi les Nike, box internet, climatisation, télévision, four, ballon d'eau chaude. Alors le mieux, c'est de poser la question à Florence Clément, spécialiste des questions énergétiques à l'Agence de la transition écologique, donc l'ADEME. Bonjour Florence, déjà, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Alors le chauffage, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est le poste qui coûte vraiment le plus cher, qu'il soit collectif ou individuel, qu'il soit électrique comme au gaz cette année ?
Oui, c'est vraiment là que les ménages ont le plus fort, la plus forte dépense. C'est 66% de la dépense énergétique d'un ménage, le chauffage. Si on rajoute à ça l'eau chaude, on arrive à 3/4 de la dépense énergétique d'un ménage. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire le maximum d'efforts pour limiter la dépense trop importante.
Comment on fait concrètement ?
Alors les premières choses à faire sont de vraiment réguler la température dans le logement, ne chauffer que si on a besoin vraiment d'être bien chauffé à ce moment-là. Donc moduler en fonction de la journée, mais aussi de ses absences. Par exemple, une salle de bain, vous l'utilisez un tout petit moment dans la journée, pas besoin de la chauffer toute la journée à la même température. De la même manière, quand vous êtes dans le salon, c'est important de vous sentir confortable, mais quand vous partez, vous couchez, pas besoin de laisser toute la nuit la maison à la même température partout.
On laisse la couette faire le boulot.
Exactement, et on dort bien mieux en plus. Et donc, en fait, on estime que si on arrive à moduler comme ça les températures du logement grâce à un thermostat programmable, vraiment en fonction de nos besoins, on arrive à peu près à économiser 15% d'énergie sur le chauffage.
Et Florence, qu'en est-il du réfrigérateur, du congélateur, du lave-vaisselle et du sèche-linge ?
C'est vrai qu'ensuite, quand on a parlé de cette dépenses chauffage et eau chaude, on arrive sur les équipements électriques de la maison qui sont là aussi un poste de dépense et c'est dans la cuisine qu'on dépense le plus. On a tendance vraiment à faire fonctionner nos appareils même quand ils ne sont pas pleins, à ne pas dégivrer suffisamment le congélateur, bref, ça crée des surconsommations. Voilà, c'est des choses qu'on peut éviter, par exemple en ne faisant des cycles de lavage que quand le lave-linge est plein et quand le lave-vaisselle est plein, en utilisant les programmes éco qui ne sont pas assez utilisés parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils fonctionnent longtemps. En fait, ils fonctionnent longtemps parce qu'ils ne chauffent pas l'eau de manière très importante, mais que c'est l'eau qui passe longtemps sur la vaisselle qui nettoie bien la vaisselle. Et puis 80% de la dépense énergétique d'un lave-linge, par exemple, c'est pour chauffer l'eau.
Ok.
D'un lave-vaisselle aussi.
On a bien compris. Alors nous qui travaillons la nuit, c'est presque plus facile pour nous de mettre tout ça en route. Évidemment, on imagine que ça va demander un certain nombre de réflexes et d'automatismes un peu nouveaux. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup Florence Clément de l'ADEME. Valérie, un mot peut-être sur les autres astuces à connaître pour passer l'hiver, comme a dit le chef de l'État.
Alors, un truc que je ne savais pas du tout, c'était couvrir les casseroles pendant la cuisson, ce qui permet de consommer 4 fois moins d'électricité ou de gaz, dégivrer son frigo pour soulager les autres appareils et purger les radiateurs avant l'hiver et laver son linge à 30 degrés.
Et à 3h du matin, on aura bien compris effectivement que nous allons tous devenir insomniaques à
défaut. Je vous amènerai mes chemises, Lénaïque.
Mais quelle macho, Roland, quand même.
Non, mais la nuit, vous travaillez, vous allez pouvoir laver mes chemises.
C'est vrai qu'on travaille toutes les deux.
On travaille, bon, vous les donnerez à Valérie et puis on s'occupera toutes les deux du repassage. Merci en tout cas à tous les deux. Session de rattrapage justement, si vous ne vous levez pas aussitôt le matin sur Europe1.fr. Restez avec nous, le rappel des titres dans un instant. Et puis juste après, la pénurie sur le marché de la location avec Christophe Bordet. À tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Lénaïque Monnier.
Dimanche 9 octobre sur Europe 1, il est 7h53. On fait le point sur l'actualité avec vous, Clément Barguin.
Plus d'une station-service sur 5 connaît toujours des difficultés d'approvisionnement. Les mouvements de grève qui touchent plusieurs raffineries et dépôts de carburant ont été reconduits hier. La CGT se dit tout de même prête à limiter ses négociations à la question des hausses de salaire. L'autre dossier brûlant pour l'exécutif, la réforme des retraites. Les concertations avec les organisations syndicales commencent demain avec des discussions autour
de l'emploi des seniors. Dans les colonnes du journal du dimanche, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, suggère que les plus de 55 ans qui sont au chômage et qui retrouvent un emploi moins bien rémunéré que le précédent puissent continuer à toucher une partie de leur indemnité. Aux États-Unis, des milliers de femmes défilent pour le droit à l'avortement, 3 mois après l'annulation de ce droit constitutionnel par la Cour suprême. Les manifestants appellent aussi à faire déferler une vague bleue démocrate à 1 mois des élections de mi-mandat. Et puis en Ligue 1, première défaite de la saison pour l'OM, battue au Vélodrome par l'AC Ajaccio 1-2. Le PSG, lui, a dû se contenter d'un match nul à Reims 0-0.
Merci Clément Barguin.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Le rendez-vous logement d'Europe 1, comme tous les dimanches, avant les infos de 8h. Bienvenue chez vous avec les bons conseils, les infos immobilières avec Christophe Bordet. Bonjour Christophe.
Bonjour tout le monde.
Alors, c'est un mouvement de fond qui semble prendre de l'ampleur. De plus en plus de logements étiquetés F ou G, qui sont donc considérés comme des passoires thermiques, sortent du marché de la location. Leurs propriétaires, bailleurs, jettent tout simplement l'éponge.
Oui, la plupart sont des petits propriétaires de maisons, d'appartements où il fait très froid l'hiver, trop chaud l'été. Les fameuses passoires thermiques interdites à la location dès le début 2023. Des propriétaires qui préfèrent vendre plutôt que de faire des travaux d'isolation nécessaires, ce qui réduit évidemment de plus en plus le nombre de biens alloués sur le marché, alors que la France manque de logements. Yann Géhanneau est président de La Forêt Immobilier.
Oui, alors il est vrai que nous voyons la mise en vente des biens classés F et G qui progressent de 11% sur les 12 derniers mois. Des propriétaires, bailleurs, donc investisseurs, qui n'ont pas les moyens nécessairement de mener la rénovation énergétique.
Et en plus, les naïgs, il y a pénurie d'artisans en ce moment et une inflation des matériaux d'isolation, ce qui n'arrange rien, évidemment.
Évidemment. Alors Christophe, pour ces propriétaires bailleurs, est-ce qu'il y a des aides d'État, comme on en parle beaucoup, la Prive Rénov, pourquoi ils ne l'utilisent pas ?
Écoutez, ils ne l'utilisent pas parce que ce n'est pas toujours si évident que ça. Il faut savoir si l'aide est assez conséquente ou pas, Yann Géhanneau.
Alors les aides sont aujourd'hui insuffisantes puisqu'elles laissent à la charge du propriétaire du logement à rénover 70 à 80% du coût d'une rénovation. Et on sait que rénover un appartement aujourd'hui, ça coûte entre 20 et 30 000 euros. Donc un reste à charge extrêmement conséquent. Et c'est nettement sous-dimensionné sur le financement, puisque MaPrimeRénov, on parle d'un budget de 2,5 milliards pour l'année 2023. C'était 2 milliards pour l'année 2022. Mais on peut estimer qu'on est à plus de 100 milliards pour rénover ce parc de 5 millions de logements dits passoires énergétiques.
Donc on est très loin du compte. Et qui dit passoire thermique dit prix en baisse à la vente de 5% en moyenne, ce qui est encore assez raisonnable.
Ouais, mais enfin quand même, Christophe, qui achète ces logements à rénover et plus largement, qui est-ce qui fait tourner le marché immobilier aujourd'hui ?
Ben, le mieux, c'est la réponse de Yann Géhanneau.
Alors aujourd'hui, le marché immobilier fonctionne avec les clientèles les plus aisées, mais il est vrai que les primo-accédants, qui sont souvent des jeunes, les jeunes actifs de moins de 35 ans, et parfois les ménages les plus modestes, ont de plus en plus de difficultés à accéder au crédit. Ça fait bien longtemps que nous n'avions pas franchi la barre des 5% de dossiers qui se voyaient refuser leur financement.
Voilà, et les délais de vente s'allongent un peu. Hein. On négocie plus à la baisse, en particulier en Île-de-France. Au total, sur l'année, on sera quand même sur plus d'un million de transactions. On va dire quand même une bonne année. Voilà, une bonne
on
année pour l'immobilier.
Ouais,
on sauve les meubles.
Merci beaucoup, Christophe. Bon dimanche, à la semaine prochaine. Les infos arrivent sur Europe 1.
Lénaïque Monnier.
Votre matinale info sur Europe 1.